Bonjour tout le monde. Comment ça va dans l'équipe Bureau Steven?
Bonsoir.
Bonjour.
Je vous entends pas.
Bonsoir.
Ouais, ça va bien.
Bonsoir le chat, bienvenue dans cet épisode 52 du Roi, déjà 52.
Ah là là, on s'arrête jamais.
Et non. Et je vois que les femmes ont sorti leur plus belle flamme.
T'as vu.
Pour cet épisode. Bonsoir Émilie.
Et bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Urde.
Bien le bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Grand Poil.
Bonsoir. Moi j'ai pas de flamme parce que je suis un pauvre, je paye pas Discord, je sais plus, ni trop là.
j'ai un fond vert moi, il faut t'acheter un fond vert.
Et moi on m'a supprimé les allumettes.
Ah.
Voilà.
Ah.
Alors on fait des bisous à Pomme qui est dans le chat et qui ne peut pas être avec nous ce soir.
C'est triste.
Et on fait des bisous à Emmerich qui est sûrement avec un fer à souder et deux tournevis en train d'essayer de réparer son Yeti.
C'est un micro, hein, c'est le ça. Yeti. Pour les personnes qui
bah oui.
Ont la réponse,
c'est une bonne remarque. Et on dit bonjour dans le chat. En revenant, bonjour François Courtis.
Oh,
bonjour Jenny, Jen 90, Minka la Ventilo, Pomme on a
Loylon.
Dit.
Loylon.
Puis voilà.
Bonjour Urde Grand Poil.
Oui, bon nous on fait des stats.
C'est ça. On fait des vues. Waouh.
Merci Jenny.
Alors,
moi aussi,
si
j'adore
la
Grumpy
technique
4.
Fonctionne, je vous propose tout de suite de dire de quel roman nous allons parler, parce que je ne l'ai pas dit, malgré les flammes. Est-ce que c'est de Carrie?
Émilie,
non.
Va vite sur le wiki, s'il te plaît. On a perdu Émeric, on n'est pas prêt là.
Alors, on va parler de Charlie. Non, mais en plus, il est sorti en France en 84 chez Albin Michel, en VO en 81, et son nom en version originale, c'est Firestarter. Et j'ai pas, du coup, en fait, vu qu'on comptait sur Emmerich pour faire son intro habituel, le lien entre Charlie et Firestarter?
Ouais, pourquoi la traductrice ou le traducteur s'est dit, je vais changer, je sais pas, départ de feu par Charlie.
Mais je pense qu'elle est.
Ouais, alors en plus, je pense que plus que départ de feu, la traduction littérale, ça doit être allumeuse de feu parce que starter.
Mais
c'est
je pense que ça faisait trop référence à Johnny. Elle a prévu, ils ont prévu d'avoir des stations.
C'était après.
Pour une petite fille, ouh, c'est pas
bout en feu.
Bout de feu. Mais c'est un mot qui est dans le bouquin, qui c'est un titre de chapitre hein, qui est bout de feu. Et effectivement, c'est aussi une traduction un peu. UP, j'ai envie de dire, de Firestarter.
C'est étonnant, c'est pourtant pas le genre de la maison de faire des traductions un peu par-dessus la jambe.
Ben là, tu vois, pour le coup, ils se sont dit, on trouve pas un bon mot, on va mettre le prénom de l'héroïne, c'est pas plus mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas déconnant comparé à d'autres trucs qu'on a eu.
Ouais, c'est du niveau de l'enfant lumière, quoi.
Ouais. Enfin, on peut en parler des titres. Encore récemment, ils ont fait n'importe quoi, mais je pense qu'on pourrait y consacrer un
épisode. Attends, c'est bien, on n'a pas eu Billy été au pluriel.
Quel enfer.
Déjà,
non,
François
on a eu...
et son humour nous dit avec Lulu du Hit Machine. Prenez ça, les boomers.
Charlie Lulu. on a notre F de boomer à chaque épisode. Ça loupe.
Du coup, vu qu'on n'a pas Emmerich, qui c'est qui fait la partie d'Emmerich?
Ah, je peux la faire si tu veux. Bien parce que la partie d'Emmerich c'est exactement ce que je viens de dire parce qu'elle est pas dans le conducteur, n'est-ce pas? Donc c'est
parce
le
que c'est lui qui l'a fait d'habitude.
Charlie, c'est Firestarter. En VO, il est sorti en 80. Et en France, il est sorti en 84 chez Albin Michel.
Il a mis 3 ans à arriver chez nous celui-là. Putain la vache.
4
ans.
À l'époque, ça mettait un peu de temps parce qu'il était c'est encore le début de sa carrière donc il est pas traduit aussi vite. Aussi vite qu'après les gros succès, quoi.
Et monsieur Michel faisait lui-même les pages. Donc il avait coupé du bois et tout, il devait macérer pour faire le papier. C'est pour ça que ça prenait autant de temps.
Et tu te dis, peut-être que vous avez, moi je ne l'ai pas relu, mais peut-être que vous avez perçu au moment où vous avez lu ou relu, je ne sais pas si le fait que ça ait pris 4 ans, ça veut dire que la traduction est meilleure.
Alors, j'ai rien vu qui m'a choqué comme dans d'autres bouquins. Pour le coup.
Ok.
Moi non plus.
Ouais.
Ok.
Déçu en bien.
Ok, bah justement, pour faire le tour de table des avis, Julien, qu'est-ce que tu as pensé de ce bouquin ?
Alors, c'était le premier bouquin que j'ai lu en sortant du cycle de la Tour, et j'étais content de lire autre chose que Roland et ses potes. Alors, je l'ai lu il y a 2 mois, j'ai un bon souvenir, je me rappelle que je l'ai lu assez vite. Enfin, je voulais savoir où ça allait aller, même si au final, je trouve qu'il se passe pas tant de choses que ça dans le bouquin. Enfin, il y a genre 3 actes, si je dis pas de conneries.
Plus ou moins. Ouais, c'est un peu ça.
Et j'avais peur que ce soit genre comme un Carrie, parce qu'on est un peu dans le même délire, quoi. Bon, c'est une fille un peu plus jeune, mais qui a des pouvoirs... alors, pas télékinésie...
Pyrokinésie, du coup.
Mais pyrokinésie. Mais je trouve que l'histoire est différente de Carrie, et j'aime bien... enfin, il y a une partie que j'aime bien, c'est quand ils se font attraper, en fait. Toute la partie où ils se font attraper dans la base, où ils sont séparés, Charlie et son père. Je trouve que c'est le truc qui m'a le plus happé, entre guillemets. Voilà, mais ouais, bien, mieux que le film.
T'en as vu qu'un seul.
Les films.
Ouais, alors que Urdel, elle est chanceuse. Et qu'est-ce que t'as pensé du film d'abord, Urdel?
On en reparlera.
Pas du livre.
Mais on en reparlera dans les films parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Le livre, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors le livre, ben, je dirais simplement quand on demande, enfin quand les gens demandent par quel livre commencer, ben commencez avec celui-là. Pour le coup, j'ai trouvé que ça représentait assez bien l'œuvre de King. Moi, je ne l'avais jamais lu, donc c'est une découverte, une bonne découverte pour le coup. Bien sûr, il y a des petites imperfections. Moi, j'ai bien aimé la relation père-fille, alors que je ne suis pas du tout public de ça. Et effectivement, ben, les pouvoirs spéciaux, tout ça... Voilà, après je pense qu'on peut faire un parallèle avec alors il y a du feu, mais je pense aussi qu'on peut faire un parallèle avec moi qui suis une grande adoratrice de X-Files, donc ça ressemble quand même pas mal du tout, donc voilà, moi j'ai trouvé très bien.
J'ai une remarque qui me revient parce que tu m'y as fait évoquer Urte quand t'as dit je l'avais pas lu avant, et j'avais l'impression d'avoir loupé un des classiques de King aussi en ne l'ayant pas lu, parce que j'ai l'impression qu'il est assez populaire et référencé dans la communauté des fans. Voilà.
Ouais, complètement.
Ouais, c'est ça. J'ai eu la même impression. Je me suis dit, effectivement, à l'époque, j'ai raté quelque chose.
Il fait partie du petit pack d'incontournables quand on veut s'initier un peu l'œuvre de King et que t'en cherches genre une dizaine. En général, il en fait partie, ouais.
Ah ouais, complètement.
Et toi, Grand Poil, qu'est-ce que t'as pensé de ta lecture ou de ta relecture ?
Ah bah, relecture plus résumé, donc ça prend plus de temps. Et surtout, en refaisant le résumé, je me suis aperçu que... déjà, j'ai vraiment adoré le relire. J'aime beaucoup ce livre, par la relation qu'on a justement entre Charlie et son père, le côté manipulation avec Rainbird, tout ça, c'est vraiment très bien fait, très bien amené. Et surtout, ce qui m'a fait halluciner, parce que je m'en rendais pas compte en faisant le résumé, mais là, en le remettant au propre, c'est que c'est vraiment un livre qui te fait tourner les pages. Enfin, c'est plein de petits chapitres, c'est très découpé. Tu as un petit morceau, puis tu passes au suivant. T'as plusieurs points de vue qui s'enchaînent assez rapidement. Donc, c'est le genre de choses qui, moi, m'accroche tout de suite et me donne envie juste de savoir le suivant en me disant, puis bah, le soir, un truc, allez, un petit chapitre de plus, et paf, t'en lis 15 de plus, si tu... Donc non, c'est très bonne expérience de relecture, et effectivement, je trouve que c'est un bon livre pour se mettre à King. C'est pas de l'horreur. Il y a des choses un peu dégueulasses quand même, comme il aime bien décrire les petites saletés. Mais psychologiquement, je trouve que c'est très malin comme bouquin, la façon dont sont amenées les choses, comment Charlie même réagit. Enfin, tout est très bien fait. Donc non, un grand kiff.
Cool.
Et toi, Émilie?
Alors, pour répondre à la question qu'Emeric poserait s'il était là, je ne l'ai pas relu. Je me souviens de ma lecture, je me souviens exactement comme tu as dit, Grand Poil, un côté très facile à lire et que tu as envie de continuer tout le temps, en toutes circonstances, et que tu relâches pas. Moi, j'avais été très très attachée aussi, comme Yann, à la relation entre entre Charlie et son père. Et en plus, j'avais, je pense, un côté pas du tout objectif sur le fait que Charlie, donc c'est le nom de la petite fille, qui est le diminutif de Charlène. Charlène étant le prénom de ma sœur, que pour les gens qui me connaissent un petit peu, les gens savent que je mets ma sœur sur un piédestal qui est impossible à toucher, qui est gardé par tous les chiens du monde. Et du coup, j'étais très attachée à cette gamine dès le départ de façon tout à fait subjective. Et je pense que c'est une des fins de King, on reviendra dessus, qui m'a le plus touchée, dont je me souviens le mieux. Et je me souviens exactement où j'étais et ce que je faisais, j'étais en train de lire, mais je me souviens exactement du contexte dans lequel j'ai lu la fin de Charlie, parce que c'est une de mes fins préférées, je crois. Et une de mes histoires préférées aussi. C'était vraiment très très bien. Je l'ai pas relu.
Alors, je regarde un peu le chat, mais il y a un peu de tout. Déjà, on va dire bonjour à Zéphiriel, et merci pour le follow. Bonjour à TheLec73 ou 73, je ne sais pas dans quelle partie de même tu lis.
Ou peut-être 73.
Bonsoir Scartouni. Je crois que Scartouni est reparti parce qu'on allait spoiler.
Oui, il a demandé. Hein. Je pense qu'il a pris peur et il a fui.
Ah oui.
Bonsoir Loylon, je sais pas si on l'avait déjà dit, et puis bonsoir Jade Rose 7, j'aime les pseudos Twitch.
Bienvenue.
Ouais, je ne lis plus les pseudos, sinon ça fait des dramas sur les réseaux.
C'est bien, tu les renommes. Petit ange LYC.
LYC.
Du coup, on passe.
C'est cool, LYC.
On passe au résumé, qui sera lu par Monsieur Poil.
Allez.
Donc avant de commencer le résumé, je vous propose une petite anecdote de Pomme, qui est triste de ne pas être là. Donc elle dit « J'ai participé à un concours pour gagner le livre, puis j'ai oublié, je l'ai acheté, puis j'ai gagné le livre, et finalement j'avais le Covid, j'étais incapable de lire, alors je l'ai pris sur Audible, c'était très bien à écouter. Le livre que j'ai gagné est l'exemplaire qu'on a nous-mêmes fait gagner au dernier épisode, et j'ai tout fini en juin, 3 mois à l'avance. Pas de bol, elle est pas là. »
Elle pour pas être là.
Salut tout le monde, c'est Pomme. Je profite de faire le montage pour glisser quelques mots. Je n'étais pas là pour l'enregistrement et ça m'a fait mal au cœur parce que vraiment j'avais envie de parler de ce livre et ça faisait longtemps que je voulais qu'on le lise. C'est le tout premier King que j'ai lu quand j'avais 14 ans. J'ai dû le prendre au CDI du collège et il m'avait fasciné à l'époque et j'ai adoré le relire. J'avais très peur de relire ce bouquin. Parce que j'avais peur d'être déçue, que mes souvenirs soient trop bons par rapport à la réalité. Mais non, 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 il a accompagné mon Covid et ma convalescence. Et c'était un très bon accompagnement, je suis vraiment ravie de l'avoir relu. Enfin, écoutez, puisque je suis passée par Audible. D'ailleurs, le lecteur, c'est le doubleur de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Du coup, quelque part, au moment des pics de fièvre, je peux dire que Léo m'a lu une histoire pour que j'aille mieux. C'est plutôt sympa. Alors ça, c'était pour mon avis. Maintenant, j'ai une petite annonce à vous faire. Le livre de poche nous offre 5 livres à vous offrir. Il y en aura 3 sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, 1 sur le Patreon, et le dernier sera réservé aux personnes qui entendent ce message. Dans le détail de l'épisode, il y a un lien vers un formulaire, et si vous le remplissez, eh bien vous pourrez peut-être être tiré au sort. Attention, attention! La fin du tirage au sort sera le 31 octobre 2022 à 23h59. Avant ça, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le détail de l'épisode, répondre aux questions, c'est-à-dire votre nom et votre adresse mail, et vous serez peut-être tiré au sort. Voilà, des bisous, je rends l'antenne à mes copains.
Avec un smiley qui pleure, donc ouais. Même quand elle est en avance, elle n'est pas contente. On ne s'en sort pas.
Donc je vais lire la première phrase. « Papa, je suis fatiguée !» se plaignit la fillette en culotte rouge et chemisier vert. « On s'arrête ? Pas encore, mon chou. »
Chapitre 1. Nous découvrons un homme, Andy et sa fille Charlie, dans les rues de New York en train de fuir quelque chose ou quelqu'un. La fillette est fatiguée. Andy est désespéré. Une voiture verte les suit et se rapproche. Il n'a pas réussi à écouter son intuition à temps. La découverte plus tôt dans la journée de ses comptes en banque vidés, inexistants même, l'ont poussé à la fuite. Il ne sait vraiment pas quoi faire sans argent et sans impulsion, comme il dit. Ce que ses poursuivants doivent savoir aussi. L'impulsion ressemble à un pouvoir psychique, une poussée permettant d'influencer les gens, comme ce suicidaire qui l'a poussé dans une autre direction il y a peu. mais ce pouvoir lui coûte beaucoup, et il a de plus en plus de mal à s'en remettre. Le cerveau en bouillit pendant plusieurs semaines s'il en abuse, comme ce qu'il semble se préparer. La voiture s'arrête, et trois types en costard l'air jeune en sortent. Andy, en panique, réussit à héler un taxi, ce qui déclenche une course chez les agents. Il crie même « Police !», ce qui oblige Andy à utiliser son impulsion sur le taxi, qui se détourne sur une remarque raciste et prend la direction de LaGuardia.
Aéroport.
L'aéroport de New York. Charlie s'endort dans le taxi pendant qu'Andy continue à pousser le chauffeur, lui faisant accepter d'aller à Albany plutôt qu'à l'aéroport. Et au moyen d'un billet de $500 imaginaire. Après ce tour de force, il a de plus en plus de mal à articuler. Ces bobards couplés à l'impulsion finissent par marcher et le laissent migraineux, mais en chemin vers un coin plus calme.
On le sait tout de suite que c'est un faux billet de $500.
Oui. Ah, non, c'est juste après. Il le dit pas au moment où il le pousse à ce moment-là, parce que le début remonte à quelque temps.
Hein, non, il le dit après, mais dans le film, tu le vois tout de suite. Par contre, c'est
le film qui nous montre tout.
On retrouvera
ce
billet bien plus tard.
Oui, mais plus tard, il va expliquer justement qui lui a fait voir le billet.
Au milieu de son délire de fatigue, Andy se souvient de sa femme Vicky, ressemblant tellement à Charlie, torturée pour révéler des infos sur eux. Et sur ses belles pensées, il s'endort et se souvient.
Si c'est ça tes belles pensées, je comprends mieux pourquoi tu dors. Gnugneux, je fais des insomnies, oui.
Oui, j'allais dire insomnie.
Andy, alors jeune étudiant de 24 ans, fauché, accepte de participer à une expérience pour le docteur Oneless, le savant fou, sponsorisé par la boîte avec des majuscules. 200 balles pour la potentielle injection d'un produit top secret appelé l'O6 ou juste de l'eau. Sa candidature est acceptée, il rencontre même sa future femme lors des entretiens d'évaluation. Avant les injections, Andy se lie d'amitié avec Vicky donc, des atomes crochus directement malgré le petit ami de celle-ci. Mais elle avoue déjà qu'elle en peut plus de celui-là. Ils se quittent le soir en se disant qu'ils auront probablement juste de l'eau. Grave erreur à venir.
Je sais pas si c'est parce qu'on a lu c'était Cœur perdu en Atlantide où on avait les 5 nouvelles.
Oui.
Mais j'ai beaucoup fait le lien entre ce moment-là et la deuxième nouvelle de ce recueil qui se passe à la fac quand ils jouent aux cartes.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête ça se passe dans la même fac.
Alors que pas du tout. Bah on retrouve l'ambiance, dortoir un peu de d'étudiant. C'est un truc que King aime bien décrire et qui lequel il s'en sort plutôt bien en plus, je trouve, à chaque fois.
Mais ils sont un peu plus vieux quand même, je crois, là. C'est une impression, je sais pas si c'est vrai, par contre.
Je sais plus. Voilà, c'était ma super remarque.
Non, c'est très ça.
Non, je regardais, est-ce que des fois, on trouve beaucoup de similarités quand c'est des œuvres qui sont à moins de 5 ans d'écart, on dira, mais non, en fait, il y a 19 ans qui séparent les deux, donc... Donc ça ne marche
19
pas.
19 ans.
Mais oui, enfin, comme disait Grand Poil, il vient d'avoir 75 ans et il écrit depuis toujours. Mmh. Donc on commence à avoir des gaps de plus de 40 ans entre deux bouquins. Ouais. Mais oui, ouais, ça fait partie des choses qu'il aime bien décrire, en effet.
Revenons au présent.
Bonjour, Josh Dredd, qui vient d'arriver dans le
chat. Yo, Josh.
L'arrivée à l'aéroport d'Albany est rude pour Andy, encore à moitié défoncé par sa dernière poussée. Il doit faire attention à maintenir son histoire cohérente, sous peine de flinguer le cerveau de son interlocuteur avec un écho. On découvrira plus tard ce que c'est. Ils arrivent tous les deux dans le terminal, mais les types en voiture verte ne sont pas loin. Andy est tellement mal en point que c'est Charlie qui va devoir leur procurer de l'argent avec réticence. Aurait-elle le même pouvoir ? Les méchants vont sûrement arriver, le temps presse. Charlie, donc, grâce à sa propre poussée de la pyrokinésie, va vider les cabines téléphoniques proches du banc où ils se sont accrochés. Donc elle va récupérer toute la monnaie qui est à l'intérieur. C'est le pas bien avec des majuscules comme elle l'appelle. Mais utiliser son pouvoir est aussi agréable que dangereux, car il est encore difficilement contrôlable. Après sa moisson, un soldat qui téléphonait à sa petite amie, Eddie Delgado. Je pensais que ça valait le coup de noter le nom.
Ah oui.
Se prendra le retour de flamme de Charlie. Ses chaussures prennent feu et il attire fortement l'attention au moment où il essaie de les éteindre. Et c'est une Charlie sanglotante qui revient près d'Andy. Ça lui a encore échappé. Mais Andy la rassure. Malgré sa douleur, elle ne l'a pas blessé. Il y a eu une forme de contrôle. Elle a su s'arrêter à temps. Mais il doit filer au plus vite maintenant et le plus discret sera l'autostop. En dépit de ses horribles douleurs, Andy va le tenter et il quitte discrètement l'aéroport.
Moi, de souvenir, c'est son père surtout qui va la rassurer parce qu'elle a oh, « je vais cramer les pieds ». Puis lui, là, oh, t'aurais pu lui cramer la gueule. Ouais, oh, d'accord. Puis,
moi, dès le départ, quand elle dit la façon dont elle pense au pas bien, tu sens que c'est quelque chose que ses parents lui ont inculqué, lui ont fait rentrer peut-être un peu de force.
Ça semble legit.
Bref, 15 minutes à peine, juste après leur départ, arrive la voiture verte. Les deux types de la boîte interrogent avec arrogance et un maximum d'intérêt un flic qui leur révèle qu'un départ de feu a eu lieu. Sa récompense ainsi qu'à Eddie sera un séjour tout frais payé par la boîte, drogué jusqu'aux oreilles. En quadrillant l'aéroport et les comptoirs, les agents arrivent à déterminer qu'ils doivent être à pied. C'est impossible pour eux de prendre l'avion. Au même moment, les fugitifs sont à 2 km. Andy, en portant dans sa souffrance, il leur suggère de descendre un talus. C'est pas très clair, cette phrase. Donc, Andy, en pleine...
Je pense qu'il tombe dans le talus.
Ils vont essayer de sortir du bas-côté de la route classique et de descendre vers la voie rapide pour essayer de trouver un raccourci. Mais il trébuche et c'est la chute le long de la pente.
Faut imaginer des mecs... Enfin, un mec qui tombe et qui arrive sur l'autoroute, quoi.
Mais je crois que c'est elle qui tombe d'abord et il va la chercher de souvenir parce qu'il a peur qu'elle se fasse écraser. Quelque chose comme ça, enfin c'est un détail.
On revient en flashback. Andy et Vicky sont en pleine injection sous l'œil attentif de Oneless. Andy remarque que malgré l'absence d'accent, il pourrait être étranger. Allemand peut-être. Gros clin d'œil. Et c'est le trip total qui commence. Des sensations étranges, peut-être même de la télépathie entre eux. Un type plus loin semble mal réagir et s'arrache les yeux. L'assistant proche de lui le rassure, c'est purement une hallucination. Mais Andy n'a pas confiance en cet homme qui bosse pour la boîte et a déjà tué 4 personnes, dont une femme qui l'a violée. Mais comment sait-il tout ça?
Là, ça commence à partir un peu en vrai.
Là, ça brille bien. Là. Il arrive d'ailleurs à communiquer télépathiquement avec Vicky et ils se décident ensemble de ne rien révéler car ils sentent que ce serait leur ticket de sortie vers l'inconnu. Le trip se poursuit donc, il croit voir des objets volés, un type faire une crise cardiaque, plein de petites choses un peu chelou.
Mais il se drague aussi, non? De mémoire.
Oui, il commence à se draguer un petit peu.
Ça flirte
sous LSD. Que des bonnes décisions à prendre sous drogue.
En même temps, ouais, c'est ça, mais ils ont une vraie connexion. Donc du coup, on peut imaginer que ça les rapproche pas mal, vu qu'ils peuvent... Il me semble qu'ils peuvent vraiment un peu tout voir l'un de l'autre. Donc,
Ouais. Après, de mémoire, lui, il est déjà au premier regard. Quoi. Genre, elle est trop belle, peut-être. Enfin, il la décrit quand même pas mal.
Ouais. Oui.
Oh.
Lui, il a faim.
Je crois qu'il est un peu décrit aussi comme effectivement un étudiant qui n'a pas trop de succès. Bref, toujours en flashback, il se réveille après 48 heures d'alu. L'infirmier agent secret tueur-violeur n'était en fait qu'une hallucination, d'après ce que leur dit Ralph, le technicien qui a fait l'injection, et s'ensuit un débrief de la session. Donc tout va bien, il s'est rien passé, rien de grave. Randy et Vicky sont presque convaincus d'avoir partagé une alu. Mais le soir, ils se racontent les expériences menées et les tests qu'on leur a fait passer, notamment Vicky qui a fait tomber des dominos avec son esprit. Ils sont encore déboussolés. Et Andy lui avoue ses sentiments. Et paf, une galoche de fin de chapitre.
Jean-Michel, pas de temps.
Retour au présent. On retrouve Andy et Charlie qui est en pleine dégringolade vers la voie rapide plus bas. Heureusement, ils arrivent à s'arrêter à temps, mais Charlie dit qu'elle aurait préféré finir devant une voiture pour avoir mis le feu à un homme. Remis de leurs
émotions. Elle culpabilise beaucoup de son pouvoir.
À mort. Tu vois, à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi et c'est pas normal qu'une petite fille culpabilise, je trouve, à ce point-là. Sur un truc, ok.
C'est un truc sur lequel ils insistent vachement dans la nouvelle adaptation.
Oui.
Sur le fais très très attention à ton pouvoir, c'est très dangereux, c'est pas bien, tu es pas un enfant normal.
Dans le premier film, c'est un peu à la one again. Brûle, Charlie, brûle.
Ouais, elle est bizarre dans le film, elle fait un peu schizophrène, quoi. Elle se parle à elle-même quand elle utilise son pouvoir.
On en reparlera tout à l'heure. Bref, remis de leurs émotions, ils reprennent l'autostop pendant qu'Andy se replonge dans ses souvenirs de ce soir où il a embrassé Vicky. Flashback à nouveau. Après avoir déposé Vicky, il rentre à pied en flânant, se souvenant de certains moments d'horreur bien trop réels de l'expérience. Il veut en avoir le cœur net et retourne sur le lieu de l'injection. Un gardien lui barre le passage, mais, pris d'une intuition, Andy réussit à le pousser pour rentrer. Ok, Obi-Wan. Dans la salle, il parvient à trouver un indice, insignifiant mais ô combien important. Une tache de sang sur une carte, preuve de certains actes violents ayant eu lieu pendant les 48 heures. On leur a menti et les nerfs d'Andy commencent à s'effriter. Il s'enfuit en courant.
C'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé la première partie, à te réécouter. C'est tous ces putains de flashbacks, quoi. C'est vrai que l'action au début, elle avance pas. Parce qu'il fait genre 50 mètres.
Ouais.
Flashback, 50 mètres, flashback. 50 mètres, flashback. Bah c'est bon, quoi. Raconte tout ce qui s'est passé et qu'on avance.
C'est aussi, je pense, pour accentuer le fait que Andy, il est complètement il est détruit par la grosse poussée qu'il a dû mettre au chauffeur de taxi. Et que lui-même alterne vraiment pour de vrai à ce moment-là entre les flashbacks et la vie réelle, quoi. Il a du mal à se focaliser.
Ah ouais.
5 jours plus tard.
Bonne analyse.
Merci. Donc 5 jours plus tard, toujours en flashback, il convainc Vicky de l'accompagner dans la salle et sur place en déroulant la carte sur laquelle était la tache de sang. Surprise ! Elle a été remplacée elle aussi, mais après le premier passage d'Andy.
Ça, c'est louche. Est-ce qu'ils savent ?
Est-ce qu'ils... Oublie pas les majuscules. Retour au présent. On retrouve, alors je l'ai noté parce que quand même, on retrouve notre les agents de la boîte s'appellent John Mayo et Norville. Vraiment, je comprends pas.
Mayo, c'est un nom de famille plutôt courant en fait aux US. Étrangement.
Ah, putain, c'est chou. Ok, très bien. Bref, on apprend qu'ils étaient déjà présents le jour de l'injection du Lot 6 pendant le cauchemar des étudiants qui sont morts. Ce sont des habitués de la chasse à l'homme et ils doivent se manier le train avant qu'Andy et Charlie soient pris en stop. Andy et Charlie, justement, sont pris en stop par un van.
Ça tombe bien.
Quelle chance.
C'est pratique.
La tronche d'Andy renseigne tout de suite le chauffeur sur ce qu'il se passe, mais il semble compatissant à l'histoire d'huissier d'Andy. Donc il brode un peu autour de ce qui leur arrive. Il les déposera 2 villes plus loin à Hastings Glen et leur proposera même $5 pour les aider. Trop sympa. Jim Paulson, donc, est un bien brave gars. Il est là juste après un vieux motel dans lequel il pourra payer en liquide et rester discret au sujet de Charlie. Celle-ci l'attendra et s'endormira même dans un buisson avant de pouvoir enfin gagner la chambre.
C'est pas là où il paye avec toutes ces putains de pièces de motel, là ?
C'est ça. Et pendant ce temps-là, t'as Charlie qui attend dans un petit buisson et qui s'endort tellement la pauvre gamine, elle est claquée aussi. arrivé dans la chambre, Andy se remémore leur 1 an de cavale et bascule dans ses souvenirs à nouveau. Ils savent, ils, les parents, depuis quasiment sa naissance que Charlie est spécial. Une première année éprouvante pour les parents, avec des départs de feu réguliers, une surveillance de tous les instants qui parfois se relâche. Pauvre nounours,
ça va être l'enfer.
Nounours, il a subi.
Déjà qu'être parent, c'est l'enfer. Et si en plus, ton bébé, il peut mettre le feu à tout.
Ah bah, il pète un coup de travers, et chit, hop, puis maison.
Ah ouais, c'est clair. Si je passe la couche assez vite, bam.
C'est ce qu'ils expliquent après, quoi.
Justement, le jour de l'accident de nounours, qui a pris feu, Andy prit la décision de marquer Charlie avec un mauvais souvenir, de lui faire comprendre que son pouvoir n'était pas bien. Et c'est ce qu'il fit avant d'appeler un de ses contacts, Quincy. Donc c'est un passage un peu dur où vraiment, je sais plus comment il le fait, mais il lui crie presque dessus en lui disant que c'est vraiment pas bien, il faut plus refaire. Tu sens qu'il commence à traumatiser un coup pour que ça sorte pas, quoi.
C'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à, alors je sais plus ce film d'animation, je crois que c'est un Disney ou un Pixar, avec une famille justement de super-héros et qui ont un bébé où ils arrivent pas trop à canaliser ses pouvoirs.
C'est un dessin animé. Les indestructibles ou les invincibles?
Ah, c'est ça. Les indestructibles. Ouais. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, genre dans le 2 ou dans le 3, avec un bébé,
et soit il n'identifie pas les pouvoirs. Mais effectivement, ils savent pas c'est quoi son pouvoir, mais il est...
Le 1, ils savent pas les pouvoirs, et je crois que le 2, ils canalisent pas les pouvoirs. Okay. Un truc comme ça. C'est rigolo, du coup, j'ai cette image-là en tête. Les indestructibles. C'est un peu ça.
Telex nous dit, les indestructibles.
Ouais,
et je sais que c'est pas Telex, mais j'aime bien Telex.
Ça passe.
Donc, Quincy qui l'a appelé, c'est un des participants à l'expérience du Lot 6 avec une vie bien agréable. Il apprend à Andy que sur les 12 survivants, il n'en reste plus que 4, Andy et Vicky inclus. Et finalement, son seul conseil sera de rester planqué, car Charlie pourrait être une nouvelle chose très intéressante pour le savant fou.
C'est tout de bien parler de ça au téléphone. C'est très important, car c'est très discret.
On est en 1980, la mise sur écoute, c'est peut-être pas aussi répandu.
À le Watergate, c'est 66, hein,
ouais, je crois. Ils en parlent pas mal, hein, quand même, de l'oncle Sam.
Quincy, le mec en face au téléphone, lui, clairement, il prend ses précautions quand il lui parle.
Oui.
Il fait très attention à ce qu'il dit.
74, le Watergate, voilà.
Donc oui, effectivement, ils ont eu le temps d'être traumatisés aussi par les événements des téléphones. Alors, nouveau livre, je ne sais plus comment ça écrit, Longmont, Virginie, la boîte.
C'est pas marqué.
C'est pas marqué. C'est, alors, un autre truc que j'ai remarqué, ouais, c'est ce découpage un peu étrange du livre, avec des grands titres de partie, mais sans dire, généralement, c'est séparé en livre ou en chapitre. Là, c'est juste des titres posés comme ça de temps en temps.
Ouais,
c'est vrai.
Des lieux.
Ouais, oui, en plus, oui.
Ah, c'est plausible.
Je crois qu'il y en a au moins un, c'est pas un lieu. Mais j'ai noté juste les en-têtes de chapitre à chaque fois, on verra. Premier chapitre, donc. On se retrouve au cœur du QG de la boîte, dans un cadre bucolique mais clôturé. Et nous suivons un vieil homme à vélo, au regard pétillant, qui passe les contrôles de sécurité de la zone, en tapant la discute avec tous les gens présents. Cap, donc, est a priori quelqu'un de haut placé, qui va bientôt retrouver le docteur Wanless, pour lequel on comprend qu'il a peu de considération.
Là, ça m'a fait penser à la série Le Prisonnier. Attends, c'est Le Prisonnier, ouais. Le sorte de village factif. Fictif, pardon.
Je sais plus si c'était ça le titre de la série, mais je vois de quoi tu parles, ouais.
Ça me parle.
Oui, il s'appelle par des numéros, là. Et c'est Dans un monde parfait. Il me semble que c'est ça. Moi, je serais malade. Enfin, je suis malade et je serais Jean-Michel à peu près.
Très bien.
Toute la soirée.
Ça va bien nous avancer. Merci beaucoup de ta participation. Donc, dans son bureau, il décide de faire poireauter le docteur en compulsant le dossier McGee, et plus largement celui du Lossis. Il leur a coûté cher en couverture des incidents et suicides arrivés ensuite. Il ne reste plus que 3 personnes ayant eu des pouvoirs, mais n'en manifestant plus actuellement. Étrange. Et c'est l'entrée en scène d'Albert Steinowitz. Witz. Pas sûr.
Et non pas le cinquième mousquetaire. Et je confirme que c'était le prisonnier.
Très bien. Donc c'était pas Jean-Michel à peu près.
Bravo.
Ça va. Le cerveau tourne toujours.
C'est Jean-Michel pas très sûr. Ouais.
Jean-Michel pas serein. Bonsoir.
Donc, Albert, c'est le meilleur agent de la boîte après Rainbird, nous dit-on. On fera sa connaissance plus tard, croyez-moi.
Rainbird, pardon.
C'est l'agent en charge de la traque des McGee. Il se fie fortement aux résultats fournis par un ordinateur, déjà à l'époque une intelligence artificielle.
Ah ouais, ça c'était ouf. Ouais. 33% qui sont ici.
C'est ça, c'était trop bien.
J'imagine avec une voix de dictée magique.
Donc oui, grâce à ces résultats, il détermine qu'Andy doit toujours être dans leur cercle de recherche et qu'il ne peut utiliser son pouvoir que de manière limitée sans être malade. Il est aussi proche de la mort d'après le même ordinateur. Ils ont enfin retrouvé le chauffeur de taxi et le prix de sa course qui contient encore une faible trace de l'hallucination. Donc le billet, c'est un billet de 5$ je crois. Sous leurs yeux, ils flashent encore en mode 500$. Donc c'est le moment que j'ai trouvé un peu étrange et je suis pas sûr que Papy Picking il savait trop où il allait avec ses pouvoirs parce que c'est pas juste l'esprit des gens, c'est les objets finalement qui ont l'air d'être affectés. Alors que quasiment tout le reste, la poussée, ça affecte l'esprit des gens quoi.
Mais alors je refais le parallèle avec Cœur perdu en Atlantide. Mais le pouvoir de l'autre là, du pousseur, non, comment on les appelle déjà?
Les briseurs.
Il peut pas aussi via les objets donner un peu de son pouvoir.
Alors quand il touche les gens, il transmet son pouvoir, ce qui arrive aussi à Ralph dans Insomnie. Mais c'est surtout quand il touche, il peut récupérer des infos si je me souviens bien.
Ok. Mais ça m'a pas choqué plus que ça que le pouvoir reste sur le billet, enfin reste sur les papiers. Je trouvais même ça cool en fait.
Ah, je trouvais ça très très cool, hein, mais vraiment par rapport à ce qu'on va nous décrire par la suite, c'était un tout petit peu bancal, même s'il est fait en lui-même, je trouve qu'il est vraiment sympa. Cap se décide enfin à faire venir le docteur Wanless et en profite pour faire réveiller Rainbird de retour de mission pour son prochain entretien. Et c'est un docteur Wanless diminué par une attaque cérébrale qui rentre dans le bureau. Obsédé par le Lossis et les sujets restants, mais tenus à l'écart pour cause de secret défense, Il vient répéter ses mises en garde de se débarrasser de tous les sujets encore vivants, même ceux inutilisables conservés dans un centre de repos à Maui. Je sais pas pour vous, mais moi j'imaginais bien le limite le professeur de Futurama en mode qui radote un petit peu, un petit.
Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Hein.
À cette occasion, on va en apprendre un peu plus sur le Losis, le DLT ou acide plus, qui permet de débloquer des pouvoirs psychiques en activant la glande pituitaire.
La fameuse.
Mmh. Mmh. Tout le monde l'a évidemment. Mmh.
Et le fameux pituitaire.
À ce moment-là, personne ne peut, nous sait, mesurer ce que peut représenter la fusion des chromosomes d'un père et d'une mère active pour Charlie. Mais Cap lui a réservé une belle cellule inifigée pour sa capture. Le docteur continuera à doter... Oui, tu...
Non, rien.
Ok.
Il se tire.
Le docteur continuera à doter et fait le parallèle entre l'éducation à la propreté des jeunes enfants et le contrôle du feu. Une espèce de blocage que Charlie est manifestement en train de surmonter. Et c'est son père qui détient la clé de ce blocage. Et pourrait le faire sauter dans un raz-de-marée de feu. Oneless recommande de tuer McGee avant qu'il débloque complètement Charlie. Avant qu'elle glandisse et que sa glande devienne trop active avec la puberté. Il peint un tableau d'apocalypse.
Et ils sont pas d'accord.
Ils sont pas d'accord, oui, tout à fait. Cap coupe court à la conversation, mais laisse un espoir au docteur de finalement écouter ses recommandations. En attendant, un coup de fil l'attend sur une ligne sécurisée.
Ah, enfin.
Mais parce que Oneless, il est en mode... elle va couper la c'est terre ça. En deux.
Dès qu'elle aura ses ragnagna, ça va être la merde. Ah bon? Ça fait ça, la façon dont ils en parlent. Quand ce sera une femme...
Je vois que dans le chat, on...
Comme tu dis, il fait un peu vieux sénile.
Ouais.
Je vois que dans le chat, on rit pour la même chose. Je suis pas la seule à avoir réagi sur elle glandisse.
Elle glandisse, ah merde.
je dis rien, j'ai pas l'intention, ça va vraiment durer 4 heures, mais en fait, hein, c'est bon.
Au bout du fil, donc, c'est Jamison, un des deux agents, pour faire un point d'étape sur les recherches qui se précisent. Cap en profite pour contacter une unité sur le terrain et demande une sanction définitive sur le grand garçon. Rainbird arrive. C'est un métis Cherokee de 2m10, défiguré au Vietnam, un œil en moins, silencieux comme la mort. En gros, une belle gueule de porte-bonheur.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Mais derrière cette apparence de troll se cache une grande intelligence qui fait de lui un excellent agent. Cap va lui proposer...
C'est aussi un pirate informatique. Ça m'a trop fait rire, j'imagine. Quand tu m'as raconté, je me dis trop le mec qui était sur l'explorateur et qui a fait... Contrôle
C,
j'ai tout
déliqué. C'est étonnant, il a tous les talents, cet homme-là. Cap va donc lui proposer de retrouver la gamine. On suppose, hein, mais on ne connaît pas la teneur exacte de l'entretien. Après d'ailleurs cette interview, Cap se prend à rêver de pouvoir l'étudier, Charlie, justement, comprendre ce qu'elle est, pour pouvoir réactiver le programme Losis. Ses pensées sont interrompues par une nouvelle sonnerie du téléphone sécurisé. Pas de repos pour les battants.
Moi, ce que j'ai préféré avec Rainbird, donc, qui est mon héros, slash je t'aime, c'est qu'ils expliquent que c'est le gars que t'entends jamais arriver.
Oui, c'est ça, oui.
Et ça me fait rire parce que il y a eu une période, en fait, où les gens m'entendaient pas arriver. Et genre, ils se tournaient, ils étaient là, ouah! Et voilà,
c'est
ça
Batman,
m'a fait rire.
En fait.
C'était une petite. Et tu le sens pas, en fait. Ouais.
Je sais pas si tu le dis là, grand poil, mais bah, il a quand même peur de lui.
Oui, non, je l'ai pas précisé là.
Il le craint un peu.
Il fait peur à tout le monde.
C'est malaise TV. Quoi.
Ouais. Ouais. Non, c'est.
Et
effectivement, c'est
dès
malaise,
ce moment-là, tu comprends que il a envie de retrouver que Rainbird envie de retrouver la fille, mais pas pour les mêmes raisons.
Puis c'est un mercenaire, si je me trompe pas, Rainbird. Donc
c'est un.
Non, c'est un agent de la boîte. Hein.
C'est un agent, mais un peu solitaire.
Ah,
quoi.
Personne ne veut faire équipe avec lui. Il est content de faire équipe avec personne.
Ouais, c'est ça.
Nouvelle grande partie. Pas de spoil. Hein. L'incident à la ferme Manders. On retourne au motel, donc, au même moment que la discussion de Cap, pour retrouver Charlie et Andy. C'est l'heure de la douche et pendant ce rare instant de détente, on assiste au combat intérieur de Charlie entre son fameux blocage qui lui dit qu'elle a été une vilaine fille et son père qui lui affirme qu'elle a bien fait de se servir de son pouvoir. Ses traumas sont profonds mais en train de changer comme le prévoyait Oneless. Elle repense à tous ses accidents de pouvoir et aux histoires horribles de personnes brûlées que ses parents lui ont lues étant jeunes. Comment ancrer cette peur de son pouvoir ? Et un conseil en cas d'émotion trop forte, de colère, faire sortir le pouvoir, mais vers quelque chose d'inanimé, un papier, une corbeille, et quelque chose de peu d'importance, surtout pas une personne. On comprend un peu mieux comment Charlie a été traumatisé et conditionné à ne pas se servir de ce pouvoir, justement.
C'est un peu la Reine des Neiges.
Oui, c'est ça. C'est l'exact opposé de la Reine des Neiges.
Version chaleur. Mais c'est la Reine.
Et finalement, quand même...
Je suis référence ouais. Disney, hein, ce
okay,
soir.
Ok, très bien. Et finalement, Charlie, au fond de sa tête, elle se demande quand même quel effet cela ferait de faire cramer les hommes de la boîte, d'être enfin libre. Honteuse de cette pensée, elle se punit en passant 2 minutes sous l'eau glacée de la douche. Grosse ambiance.
C'est marrant parce qu'elle a vraiment ce sentiment de pénitence, quoi. Oui. Sans qu'elle soit dans la religion comme pouvait l'être Carrie et sa mère.
Ouais, mais ça reste basé sur les traumas d'enfance, un peu comme Carrie. Hein. Elle a été Carrie de ce côté-là, elle a été traumatisée par ses parents à suivre la voie de Dieu.
On aime bien les traumas et les conditionnements de l'enfance chez
C'est ça. Mais imagine, pendant 10 ans, on dit que ton pouvoir, c'est non, c'est pas bien.
Tu vas tuer papa, tu vas tuer maman.
Et puis on t'engueule et tout.
C'est sûr.
Ouais, voilà, c'est quand même, c'est bien ancré, quoi.
Et puis un jour, libéré, délivré, quoi.
Voilà.
Non.
Elle risque de délivrer à la fin. Pas de soucis.
Ah.
Andy finit par se réveiller avec encore un léger mal de crâne, ayant du mal à se souvenir où ils sont. Charlie sort de la douche et lui fait remarquer qu'il a un œil étrange, et effectivement, celui-ci est injecté de sang, la paupière tombante. Andy trouve également 3 zones insensibles sur son visage. Son pouvoir continue de le tuer à petit feu. Il promet ensuite à Charlie de s'arrêter au premier café après leur session d'autostop à venir.
Et si jamais c'est des signes de prochain AVC, hein, si jamais... Vous rencontrez ça dans vos discussions.
J'aurais plutôt dit que c'était pas plutôt un AVC déjà passé pour que justement ce soit déjà insensible.
Je crois que ça peut être avant ou pendant. Enfin bref, je sais plus exactement, mais ça ressemble bien à de l'AVC, quoi.
Ok, très bien. Donc faites gaffe à vous. Au même moment, Jameson et une escouade de la boîte arrivent à Hastings Glen, prêts à faire le tour des motels du coin. Il en profite aussi pour interroger / terroriser la serveur du diner local pour être sûr qu'elle n'a pas servi les fugitifs. Cette scène d'abus de pouvoir est vraiment dégueulasse. D'autres agents, John Mayo notamment, sont justement en direction du Slumberland Motel, l'endroit où ils se sont arrêtés, lorsqu'un pneu de la voiture éclate. Ils sont doublés par un camion. Un clin d'œil ou pas ? Le timing est très suspect. Pendant que les agents règlent leurs problèmes de route de secours, Andy et Charlie partent du motel en réfléchissant à la marche à suivre. Charlie suggère d'aller chez Granter, mort il y a un moment et dont la femme d'Andy a hérité la maison. À ce moment-là, on suppose que ça va être son grand-père, un truc comme ça. C'est un coin au calme et un peu isolé qui pourrait leur donner le temps de réfléchir à leur prochaine étape. L'idée validée, le pouce levé, un camion qui vient de dépasser les agents les prend en stop.
J'aimerais citer Telex du chat. Analogie avec les enfants qui grandissent, s'épanouissent et peuvent se faire du mal. L'enfant apprend à faire du vélo. Soit on lui dit « n'en fais pas, c'est dangereux », soit on lui apprend à s'en servir. Et effectivement, Oneless, il va avoir un discours de ce type-là. Même il va plus loin, il va dire par exemple que naturellement, on se pisse et on se chie dessus. Mais que tu apprends à l'enfant à ne plus le faire, quoi. Donc ça fait partie de ces choses que tu imprimes sur ton cerveau. Et il donne comme exemple une expérience qui avait été faite sur des gens qui auraient dû se pisser dessus. Et beaucoup ne peuvent pas, en fait, tellement c'est ancré dans ta tête.
Ah, je me rappelle de ça.
Ouais.
C'est sûr que c'est pas la meilleure pédagogie à avoir avec son enfant quand il a un tel pouvoir.
Ouais, mais c'est difficile de... Enfin, tu comprends les parents qui réagissent dans la panique et qui...
Ouais. Oui, puis surtout
ouais,
que
puis potentiellement elle peut mourir en fait, donc ça me paraît.
Elle peut tuer, ce qui va encore plus la traumatiser. Elle peut mourir, elle peut se faire attraper et du coup les tuer tous les trois, parce qu'il y a aussi ce truc où ben en fait il faut pas non plus qu'elle dévoile qu'elle a des pouvoirs. Donc au-delà de ça, elle peut très bien apprendre à les gérer, mais quoi qu'il arrive, elle doit pas les utiliser. Donc
la charge mentale des super-héros, est-ce qu'on en parle un peu?
Tu lui coupes un doigt à chaque fois, elle va apprendre très vite.
J'en parlerai à ma femme. Okay. On verra si on éduque nos enfants pour voir.
Écoute, je suis toujours là pour des conseils d'éducation.
C'est vrai. On fera un hors-série spécial avec tous nos conseils qu'on a donnés pour les parents. On en avait quelques-uns pas mal dans le sommeil aussi.
Oui, c'est vrai. Le chauffeur de camion donc s'appelle Irv Manders, c'est un fermier et il leur propose de manger chez lui après que Charlie ait bricolé une excuse bidon sur les raisons de leur autostop. Celle-ci accepte l'invitation avant qu'Andy ait le temps de réagir. Pendant ce temps, les agents comprennent qu'ils les ont ratés de peu et ciblent rapidement le camion branlant comme probable autostop les ayant pris. Ils sont quand même malins. Irv et les fugitifs arrivent à la ferme au bout d'une route de campagne un peu perdue. Devant sa grande bicoque, on trouve poules et même vaches au grand bonheur de Charlie. Andy a abandonné la partie et se laisse entraîner par la bonne humeur de sa fille.
C'est bien, ça fait une petite respiration quand même. Enfin, ils sont en cavale depuis un an.
Ouais, ouais, mais à côté de ça, toi, le lecteur, tu lis les trucs, les agents sont juste sur leur fion directement. Quoi. Donc, tu sais que c'est...
Là, ils ont eu un coup de chance.
Tu sais que...
Mais ils le savent pas.
Ils ont un coup de bol, ça va pas durer. Justement...
Ouais, parce qu'ils sont passés par des routes toutes pourries, donc c'est pour ça qu'ils les trouvent pas tout de suite.
À midi et demi, les agents ont identifié le propriétaire du camion. L'étau se resserre. Chez les Manders, Charlie et Andy se calent le bide comme jamais avec les spécialités du coin. Alors, dans le résumé, j'ai marqué Burke, mais je sais plus pourquoi ils doivent manger un truc chelou, mais je me souviens plus quoi.
Je me rappelle plus.
La tarte aux pommes, je me souviens, mais pas le reste. Ça devait être un ragoût, ou je me souviens plus. Grave.
Après le repas, Irv et Andy ont une discussion ouverte. Le fermier ne croit pas tout, mais a l'air de vouloir continuer à les aider. Charlie, revenant nourrir les poulets avec Norma, est triste que la vérité soit sortie. Et soudain, son regard s'emplit de terreur. La boîte arrive. Et effectivement...
Donc là, on apprend qu'elle a d'autres pouvoirs.
Oui, c'est ça, qu'elle a senti leur arrivée. Elle est pas juste, elle fait pas que du feu.
Non.
Ouais, mais c'est assez faible hein, quand même. On ne sait pas si c'est de l'intuition, pouvoir, ça doit être un peu des deux. Enfin, la vie personnelle. Hein.
Bah, je ne sais plus si on nous décrit.
Je crois qu'elle est visualiste parce qu'elle dit dans le chemin, ils arrivent. Enfin, tu vois, elle est quand même assez précise.
Oui.
Ouais, elle a une bonne prémonition en tout cas, ça c'est sûr.
Et effectivement, 16 hommes sont en train de s'organiser au début du sentier, souhaitant éviter au maximum de solliciter la police locale pour qu'Andy puisse avoir un accident fatal. Charlie, de son côté, elle panique. Elle monte dans les tours. Elle comprend qu'ils veulent tuer son père pour l'enlever. Elle. La température commence à sévèrement monter dans la pièce. Cela finit de convaincre Irv, qui leur propose de l'aide. Mais ils n'ont pas besoin de fusil. Charlie sent qu'elle peut les arrêter, et Andy lui dit qu'ils en sont au point de tuer ou être tués. Il ne veut pas la forcer, mais l'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Cela donne de la confiance à Charlie. Prends ta décision toi-même, ma petite. C'est sympa. Et c'est la confrontation avec Al Steinowitz et ses agents. Andy essaie de les convaincre que c'est une mauvaise chose de se rattraper. Attends.
Ça sera pas coupé au montage.
Ouais, bah tant pis. Il essaie de les convaincre que c'est une mauvaise chose de les attraper, mais sur deux, ils prennent la maison d'assaut. Charlie se déchaîne alors. Un coup de feu part, mais elle est plus rapide et une partie des agents s'enflamme.
Et malheureusement, maintenant que j'ai vu le film, je ne pourrais jamais imaginer autre chose que cette magnifique scène.
La boule de feu, là.
Ouais, non,
ah non, après, non, la boule, oui. Non, c'est...
Pas encore.
Feu, non, juste là, elle arrête les balles, je crois. Je crois qu'elle arrête les balles, pour l'instant.
Alors, ouais, là, dans...
Je sais plus si c'est
dans
là.
Le livre, dans non, le livre, c'est plus tard qu'elle arrêtera, qu'elle fera fondre les balles. Là, elle n'y est pas encore. Mais là, juste, ouais, les balles arrivent et elle fait cramer des gens.
Mais je trouve que la scène est super bien décrite pour le coup dans le livre.
Ah oui, oui. Ah oui, bah tu, enfin il y a tous les, j'en parle un tout petit peu après, mais ouais, il rentre dans le détail. Irv essaye de les aider, mais un nouveau coup de feu claque. Norba pousse un cri. Charlie, pleine de fureur, enflamme le visage de Steinowitz. Les autres agents prennent la fuite. Andy est libre et Charlie ne contrôle plus son pouvoir. Les voitures commencent à exploser. Charlie, pourtant, a l'air calme maintenant que son pouvoir est libre. Les poulets commencent à griller. Les munitions explosent dans les pistolets.
Non.
Andy hurle sur Charlie. Tout le monde est en danger maintenant. Il finit par la claquer. Fort.
Faut imaginer, genre, c'est un lance-flamme qui s'arrête. Et elle est comme ça, là.
Ouais, c'est trop... Dans le film, c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça, hein. Mais même, enfin, même ouais, comment c'est...
Ouais, dans tu sais que c'est... Fait, c'est... Enfin, il y a des vagues de chaleur qui partent d'elle. Et elle sait plus... Elle... Enfin, elle, elle s'en fout maintenant. Elle dit, c'est libre, vas-y. Vite ta vie, petit feu.
Ouais. Bon, dans le premier film, c'est assez soft, cette partie-là. Elle fout pas le feu à la maison, enfin... Elle fout juste le feu aux gens et les bagnoles les explosent. Mais ça, le reste, ça va. Les poules, tu les vois pas cramées parce que moi, ça m'a fait beaucoup de peine.
Ah bah oui.
Ouais.
Ils nous parlent pas des vaches.
La vache, elle est dans le. Enfin, les trois vaches sont dans l'étable. Mais vu qu'elle fout le feu partout.
Donc... Oui, je pense que ouais.
C'est triste.
Steak et elle.
Ça fait un méchoui des chicken.
Bon, les poulets, ils ont explosé, hein, donc ils sont plus mangeables.
C'est vrai qu'ils explosent.
C'est vraiment genre des miettes, quoi.
En tout cas, ce qui est marrant aussi, c'est la déroute des agents, parce qu'ils sont quand même une petite dizaine. Et très vite, il y en a genre un qui brûle, les autres font...
Alors,
c'est plus mon problème.
Elle lui brûle le visage, il y en a deux, trois autres qui s'enflamment, et c'est à ce moment-là quand même qu'ils partent.
Ouais.
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 Allez, voyez. Bref. Le choc lui remet les idées en place et on retrouve la pauvre petite Charlie et non plus une espèce de déesse destructrice. Elle s'évanouit dans les bras d'Andy qui la porte vers la maison où Irv gît avec un bras blessé. Norma lui crie de déguerpir avec son monstre.
Ça, c'est dur.
Ah ouais.
On comprend la peur de Norma. Putain, ouais. Traiter la gamine de monstre et tout.
C'est ça.
Alors qu'ils se font poursuivre, c'est un peu, ouais, c'est un peu dur.
Ouais, dans la panique.
Je comprends les deux.
Ils connaissent pas, ouais. Ouais, les deux points de vue sont logiques mais difficiles.
Alors, un des agents en fuite est toujours vivant. C'est notre ami OJ. Alors, je crois que j'en ai pas reparlé au début du, mais c'est le pote de John Mayo. Et il a un flingue qu'il appelle le pompeur.
Ah oui,
c'est un mec subtil encore. Mais on le retrouvera un peu de temps en temps, donc c'est pour ça que j'ai préféré le noter là maintenant. Il regrette ses choix de vie après avoir vu ses collègues transformés en torches humaines.
Oui. Une petite remise en question.
Et il court.
Il se raccroche à la bête.
Merci.
Minka nous dit qu'il y a Andy qui sent ses sourcils chauffer aussi. Ça doit être quelque chose.
Ça doit puer surtout.
Tant que c'est...
Et Telex qui nous dit « Côte de bœuf à point, je ne ferai pas de commentaire.
» Andy se précipite à nouveau vers Irv, mal en point, mais qui veut quand même lui parler et les aider contre ses agents du gouvernement. Il lui propose une vieille Jeep alors que sa maison brûle en arrière-plan et que Norma pleure.
Oui, mais ils n'avaient pas de mandat.
C'est ça, exactement.
Ça m'a trop fait rire. Oui. Je suis dans mon droit, je suis chez moi. Pas faire ce que vous voulez.
J'ai mon flingue.
C'est très Amérique profonde. Hein,
c'est ça. Ouais. Charlie se réveille et vient constater avec panique les dégâts qu'elle a causés. Elle se promet de ne plus jamais faire appel à son pouvoir. Ce à quoi Irv lui répond qu'il ne faut jamais dire jamais et faire de son mieux avec ce qu'on a.
J'adore cette citation que j'ai fait un print screen, je la mettrai sur Insta.
Ok, vas-y.
Effectivement, il ne faut jamais dire jamais parce que Dieu te rachit, en gros.
Oui, tu auras des tentations. Le fermier les fait donc partir sur un dernier conseil. Une route qui n'apparaît sur aucune carte et leur permettra d'éviter les barrages. Ils doivent partir alors qu'au loin, on entend les sirènes des pompiers qui se rapprochent. OJ, de son côté, reprend assez ses esprits pour faire un rapport qui atterrira très rapidement sur le bureau de Cap. Celui-ci est impressionné par la description d'Apocalypse qui est faite et met en branle tous ses contacts et ressources pour préparer le terrain. L'armée...
En gros, il voit qu'il y a une arme, quoi.
C'est ça.
Une nouvelle arme, ça va être trop cool.
Ouais, c'est ça. Faut qu'on puisse s'en servir.
Et c'est pas lui justement qui est responsable aussi pour avoir des fonds, enfin les thunes et tout.
Il fait partie. On le voit plusieurs fois qu'il a besoin d'aller défendre son budget, des choses comme ça. Donc
Ouais, c'est ça.
Des résultats.
Une arme humaine, ça peut donner envie.
Ouais.
Donc bref, il rameute tout le monde, l'armée, les directeurs de son agence et de son agence et enfin John Rainbird. Washington DC. On retrouve justement Rainbird dans une chambre d'hôtel en pleine méditation sur la mort. Et Charlie, attendant patiemment l'heure d'aller tuer le docteur Wanless. Au moment fatidique, Rainbird s'introduit en toute discrétion dans la chambre du docteur et plutôt que de le tuer, lui demande une conférence sur Charlie, lui faisant miroiter la vie sauve. Ce ne sera bien entendu pas le cas, et il l'étouffera en étudiant attentivement son regard, curieux de voir ce moment où l'âme quitte le corps.
Ah ouais, là, il est devenu creepy.
Là, tu vois.
Le mec,
l'assassin qui... Il a un truc avec la mort,
ouais,
quoi.
Ouais, il est fasciné par la mort. Le mec qui est obligé de regarder les gens dans les yeux qui tuent. Chose que dans le film, se résume à...
Ouais, c'est ça.
Il lui met un coup dans la glotte, quoi. Il n'y a pas de patati patata. Hein.
On n'a pas le temps de niaiser. Et bon, une fois son travail fait, il retourne paisiblement se coucher en pensant à Charlie. Alors, tâche mort au Vermont. Après 2 jours d'un trajet épuisant physiquement et moralement, Andy et Charlie arrivent enfin à Tashmore Pond, au terme d'une route mal entretenue, barrée à moins d'un kilomètre d'un arbre abattu. L'état de la route, toute pourrie, les rassure sur la tranquillité du coin. Après une petite marche, ils atteignent enfin le chalet de pierre et de bois au bord du lac. Un cadre idyllique où Andy est assailli par les souvenirs de Granter et de sa femme. Je continue à me demander si Granter c'est vraiment un nom ou si c'est une façon, un truc américain pour dire grand-père, qui aurait été pas traduit.
Je sais pas.
Parce que le nom est vraiment chelou.
Je sais pas non plus.
Ouais, puis alors.
Pour moi, c'était son prénom, mais.
King, il a une vraie. Si c'est ça, ça veut dire grand-père. King, c'est un dialecte. Et il a vraiment une vraie tendance à soit inventer des mots, ou soit utiliser des mots qui sont plus très communs, ou plutôt dans le langage courant. Et genre, quand tu le lis en VO, moi là, je suis en train de lire Fairy Tail, qui est sorti en anglais, là, il y a 20 jours. Et je le lis sur Kobo, parce que quand il y a des mots que j'ai pas, j'aime bien les traduire. Donc en plus, ça enrichit mon vocabulaire. Et en fait, un mot sur deux que j'ai pas, c'est parce que c'est des mots que le dictionnaire ne connaît pas. Il a ce truc. En fait, je pense que ce mot-là, tu le cherches avec le dictionnaire de la Kobo. Kobo, il connaît pas, quoi. Mais en effet, quand tu cherches sur Internet, sur Wiktionary, c'est Grandfather, donc
D'accord.
C'est ça. Ok.
Bien joué.
Donc tu vas sur Urban Dictionary, ouais. Où tout est lié à on dira pas quoi.
Ou Lingui aussi.
La maison était...
Eh bien, merci pour cette...
Pour ce petit cours de linguistique.
Culture générale. Ouais.
Et ouais, le roi, on est moins con qu'on l'a écouté.
Bah écoute, on apprend des trucs, c'est l'essentiel dans la vie. Hein.
Comment éduquer ses enfants et comment parler anglais.
Voilà, papy, c'est Grandeur,
du coup, je pense qu'il faudrait dire. Ouais. Donc je comprends qu'ils aient pas essayé de le traduire. Hein. Parce qu'ils ne devaient pas savoir non plus. Ouais. La maison est telle qu'il l'a laissée à son dernier passage, avec une bonne réserve de bois, de fuel et de boîtes de conserve. Des livres pour Charlie, de la gnôle pour Andy. Il récupère une scie pour découper l'arbre abattu et ramener la Jeep. Charlie se sent en sécurité au moment de s'endormir et ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé.
Là, je me suis dit, ils ont quand même un peu de chat avec la maison.
Combien de temps ça va durer?
Alors, combien de temps non? Ça, tu peux survivre dans la forêt, il n'y a pas de problème. Mais de trouver un truc qui est encore habitable ou. Dans lequel t'as pas été depuis un moment, le mec est mort depuis un moment, en plus t'avais la clé. Alors que t'en cales depuis un an.
Et la bouffe.
Ouais, ouais tu vois, quand je.
Chatard.
Ouais, c'est vrai.
Après, c'est peut-être pas si déconnant, vu que c'est des trucs de vacances, tu sais, qui peuvent tenir quand même quelques années tout seul. Enfin, j'imagine. Hein.
Oui, c'est large possible.
Charlie est au lit. Andy va boire un coup au bord du lac, profitant de ce premier vrai instant de repos depuis 14 mois de cavale. Il repense à ses erreurs et à celles encore plus évidentes maintenant faites par la boîte dans sa surveillance. On découvre qu'Andy a des accès d'intuition prémonition très claires qu'il a appris à suivre. Cela a commencé en août 80 lorsque d'un repas avec ses collègues de la fac. Il est soudain pris d'un instinct comme une voix qui lui dit que quelque chose ne tourne pas rond. Il se précipite chez lui et en fouillant la maison, finit par découvrir le cadavre de Vicky, bien rangé dans un placard de la buanderie. Bonne prémonition, c'est bien pour commencer un pouvoir. Torturé, plus d'ongles aux mains, Andy comprend que quelqu'un cherche Charlie. Il va devoir se dépêcher de la retrouver. Elle est en visite chez des amis, ce que les agents ne savent pas, et ont dû prendre pour une fugue. D'où cet excès de zèle qui conduit à la mort de Vicky. Andy appelle les Dugan pour découvrir avec horreur que Charlie est parti avec deux inconnus se faisant passer pour des professeurs. Ils sont en fourgonnette grise et ont 15 minutes d'avance. Andy panique et fonce dans sa voiture.
Super les parents.
Ah bah il y avait...
Ouais, j'avoue...
Nous sommes des professeurs et nous emmenons des enfants dans des fourgonnettes. Faites-nous confiance.
Bien sûr.
Nous avons des bonbons.
Ok. Ok, la voilà.
Alors
Ils appellent même pas.
La nourrice de mon village, son mari le mercredi après-midi, on partait, on était tous, enfin tous, on était 4 ou 5, à l'arrière de la camionnette, donc sans ceinture ni rien, pour aller se promener dans les bois, ils nous emmenaient comme ça. Non, c'était vraiment une vraie camionnette de bricoleur, tu vois, où c'était assez grand au final pour des enfants, mais on n'était pas attachés ni rien, donc s'il avait un accident, c'était pas très très légal.
Classique.
Ok.
Classique campagne.
Maintenant, origin story. De...
La Bourgogne. Écoute, c'est grandi entre Émile Louis et Giroud. On fait ce qu'on peut. Littéralement.
Un trauma de pas avoir de ceinture dans la fourgonnette.
Ouais, c'était ça.
Andy arrive à remonter la piste de la fourgonnette depuis chez les Dugan jusqu'à un embranchement. L'autoroute ou l'aéroport? Le dilemme est cruel et Andy essaie de provoquer une de ses prémonitions. Il y arrive avec juste assez de certitude pour s'engager vers l'autoroute. Il poursuit son chemin, cherchant la fourgonnette, réfléchissant à où ils auraient pu aller. Une aire d'autoroute approche. Andy ralentit à fond pour voir la fourgonnette grise. Je bois un coup dans pas longtemps. C'est le cœur tapant qu'il s'arrête et voit Charlie sortir des toilettes entouré de deux hommes. Pas flippant. La trouille et la colère...
La couleur,
hein. N'importe quoi.
La couleur avec le gros spatter.
Ah merde, mes origines allemandes ressortent. Donc la trouille et la colère l'emplissent d'adrénaline. Il sort de sa voiture dès qu'il lui tourne le dos, incertain de ce qu'il va faire, mais la colère continue à grimper alors qu'il se rend compte que Charlie est terrorisé. Andy décide de se montrer frontalement. Les agents réagissent vite et mettent Charlie en joue pour s'assurer du calme d'Andy. Celui-ci pousse à fond et un des agents est persuadé que son pistolet est brûlant. Il lâche son arme, sa main couverte de cloques. Cela détourne suffisamment l'attention du deuxième pour qu'Andy puisse pousser à nouveau pour le rendre aveugle.
Ça se trouve.
Ouais. Faut penser aux bonnes choses à faire quand t'as des mecs avec des flingues en face. Finalement, il fait s'endormir le premier agent et profite des quelques restes de pouvoir pour faire en sorte que les témoins gardent leur calme, voire même ignorent les agents en détresse. Alors qu'eux, à côté, il y en a un qui dort et l'autre qui est en train de « Ah, mes yeux, je vois plus rien !» Ils reprennent enfin la route. Andy, très mal en point, la vision trouble. Il arrive à rouler jusqu'à la sortie suivante et prendre une chambre d'hôtel pour avoir un peu de repos, et il s'effondre sur le lit. À son réveil quelques heures plus tard, le mal de crâne est très présent, mais il essaie de faire bonne figure auprès de Charlie. L'inventaire de son argent n'est pas brillant, et Charlie comprend que sa maman est morte, et l'air dans la chambre devient intolérablement chaud très rapidement. Andy arrive tout juste à lui faire diriger son pouvoir vers la salle de bain, où il éclate la pomme de douche. Il tombe ensuite dans les bras l'un de l'autre en pleurant, Andy promettant que d'une manière ou d'une autre, la situation ira mieux. C'était donc il y a 14 mois, début de la cavale.
Et... Si tu veux boire grand poil, j'ai une rectification à faire. Ah.
Ouais, puis il y a Minka qui a une origin story sympa aussi.
Ah oui, bah voilà, tu peux boire. Parce que Minka dans le chat a réagi sur mon anecdote avec la nounou en disant les nounous dans les années 80. Alors je te remercie Minka, je sais que je ne suis pas de la première jeunesse, mais moi la nounou c'était quand j'étais en primaire, donc c'était les années 90 et pas les années 80.
C'est pareil.
Non, pas du tout.
Sachant que sa nounou l'emmenait au cimetière, prier.
Minka, ouais.
Ah. Moi, ma nounou, elle me le gardait chez elle. Je n'ai pas de souvenirs d'aventures comme les vôtres.
c'est plus étrange.
Mais moi, c'est le mari de Manon qui veut ça.
Et du coup,
et Manon, elle me faisait le caté.
Minka, elle a aussi une bonne, une bonne chose sur cooler. C'est quand t'es en colère, mais que tu restes cool. Et j'aime bien.
On est comme King, on invente des mots.
J'aime bien aussi.
Et pour en revenir à l'histoire, j'aime bien ce côté. Il faut dire, elle peut diriger sa pensée vers un truc d'eau, tu vois, pour faire évaporer le truc. C'est assez malin, c'est assez graphique en fait. Je trouve comme représentation de son pouvoir.
Ouais, puis ça donne une bonne cible pour la chaleur. Tu cherches son opposé, ça lui donne ça lui donne un point de repère facile à trouver.
Non, parce qu'au final, la pyrokinésie, c'est pas le truc le plus facile à décrire, quoi.
Non.
Ouais.
Des trucs brûlent.
On va faire un truc qu'on arrive à visualiser.
Ouais, il me semble, elle parle d'une pensée, finalement, qu'elle doit diriger quelque part. Et il y a le feu qui se fait d'après cette pensée. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, quand elle doit l'arrêter, bah, elle pense pour que ça aille dans de l'eau, dans la baignoire. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le comprends. Après,
non mais c'est comme ça que je l'ai compris aussi.
Après, ça a discussion, quoi, ouais.
Ok. Alors, où en étions-nous ? Donc, Andy s'apercevra par la suite que toute l'affaire aura été étouffée, la mort de Vicky, sa disparition, et même les deux agents. Il passe l'hiver de manière plus ou moins confortable, Andy traversant régulièrement le lac gelé pour cambrioler le nécessaire vital dans les chalets aisés de l'autre côté de la rive, faire quelques courses pour habiller Charlie et lui-même pour cet hiver rude au bord du lac. Ils arrivent comme ça jusqu'au 24 mars, pour fêter l'anniversaire de Charlie. Les randos cambriaux, ce sont aussi l'occasion pour Andy de réfléchir un peu plus clairement à leur avenir. Mais, entre la boîte et les capacités effrayantes de Charlie, il arrive à une décision. Il doit rendre publique leur existence, et surtout celle de Charlie, pour qu'elle puisse être prise en charge sans finir dans une petite cellule de la boîte. Il va donc écrire plusieurs lettres pour des personnalités politiques et des journaux. Il les fera lire à Charlie pour confirmer le contenu et se décide à les envoyer le lendemain.
Alors le saviez-vous, Corneille et Jessica Chastain sont aussi nés le 24 mars.
Merci, okay. Merci. Merci Jean-Michel Wiki.
Dommage de ne pas avoir cette info.
Oui, je sais.
Charlie.
Culture générale.
Oui.
Pardon.
Charlie, elle, de son côté, se dit qu'elle ne veut plus jamais faire de feu. Elle est dégoûtée d'elle-même. Mais Andy sent que ce ne sera pas aussi simple. La vie n'est jamais aussi simple. Au moment de poster ses lettres, Andy est vu par les vieux de la ville, qui, tels des vigies édentés, le surveillent d'un œil amusé. Mais sans en parler à qui que ce soit d'autre. Mais plus gênant, il est vu par Charles Payson, un nouvel arrivant qui tient une boutique de souvenirs qui va mal. Lui, par contre, est un agent de la boîte qui va prévenir ses patrons de l'envoi des lettres. Ils sont partout.
Eh oui.
Nous sommes le 10 mars, peu de temps avant l'anniversaire de Charlie. Et pendant que nos deux fugitifs profitent d'un moment de répit, deux agents de la boîte, dont notre vieux pote OJ, interceptent le postier pour récupérer les 6 lettres d'Andy et les ramener à Cap.
Postier qui tient beaucoup à sa fonction et qui tape un scandale.
Jusqu'à ce qu'il le menace et il fait « Oui, tenez !»
Même sa femme est là « Mais c'est pas possible !»
On est toujours dans l'Amérique profonde, ça, il n'y a pas de problème.
C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dénoncé à la base, les autres, parce que le gouvernement, c'est des connards.
C'est un peu ça l'idée. Ouais.
Une nouvelle partie, Cap et Rainbird. On retrouve Cap justement le 24 mars à son bureau en possession des lettres d'Andy. Il a l'air prématurément vieilli. L'affaire chez les Manders menace de couler la boîte et il a perdu sa femme adorée et sa secrétaire il y a peu.
Ah oui, c'est vrai.
Toutes deux mortes d'un cancer. Il pense que résoudre l'affaire sera son dernier sursaut à son poste, voire le dernier de la boîte elle-même. La bonne nouvelle, c'est qu'ils savent où sont les fugitifs depuis une semaine, après chez les Manders. La surveillance a pu être établie sans peine, mais maintenant que les lettres ont été envoyées, Cap sent qu'il doit devoir passer à l'action. Les conclusions de ses équipes lui font reconsidérer l'utilité d'Andy, il en a besoin vivant. De son côté, Charlie est peut-être une mutante. Insérer le générique des X-Men. Pas seulement une hybride exposée au Holosis. Mais c'est le moment où Rainbird arrive et interrompt les pensées de Cap.
C'est pas à ce moment-là qu'il parle de génération ou de je sais plus quoi, Y, et que là c'est la, du coup, non c'est pas génération, mais bref, de composant Y, et que là elle c'est un pose à chromosome Z vu qu'elle est.
Oui, ils savent pas comment la catégoriser par rapport aux gens qui ont reçu le pouvoir.
Voilà.
Effectivement,
elle a hérité de ses parents.
C'est ça.
C'est ça.
Cap donc est là pour proposer le job à Rainbird. Celui-ci, après sa visite à Oneless, a terriblement envie de rencontrer Charlie. Il a même une condition à cette rencontre. Il veut avoir le temps de connaître intimement Charlie.
Weirdo.
Oui. Ouais, complètement.
Ouais, c'est chelou.
Cap, de son côté, s'emballe car Rainbird le menace. Mais menace tellement réelle que Cap finit par accepter sa condition. Il est après tout le seul à pouvoir les ramener à la boîte. Et c'est après... Cet exploit assurera la survie de la boîte et le job de Cap pour encore un paquet d'années.
Parce que pour Empoil, elle a écrit
X-P-L-P-I-T.
Et il y a exploit dans sa langue.
Ouais.
Xplit, pute.
C'est des fois le correcteur orthographique, il arrive même plus à me suivre.
Il sait se relire en tout cas. C'est impressionnant.
C'est déjà là que Rainburn est en mode ouais, je veux que ça soit mon amie, cette petite, et puis après je vais la buter.
Ça
à ce moment-là, mais
il veut vraiment rentrer un peu dans sa tête avant de s'en débarrasser. Ouais.
Oui, puis
et qui décrit bien comment il veut qu'elle meure, tout ça. C'est bien horrible, donc j'ai adoré évidemment.
Oui, puis il dit que même lui, Cap, il n'arrive pas à reconnaître la valeur de cette fille qui a le pouvoir des dieux. etc. Et qu'il y a peu de gens sur Terre qui peuvent comprendre ça. Donc lui, il aurait un pouvoir de Dieu aussi. Qui serait d'avoir des semelles molles. Pour que personne n'entende arriver.
Des semelles molles. Ah, mais je promène dans l'espadrille. Ah, c'est avec la classe, Rainbird.
Pardon.
Non, mais lui, il lui donne un côté mystique, en fait.
Oui, oui.
À cette gamine.
Oui, c'est un indien,
enfin. Ouais, ah oui, oui.
Non, mais
c'est raccord.
Non, mais il est attiré par la mort, dans tous les cas, tout ça, ouais.
Nouvelle partie. Je sais pas comment les appeler à chaque fois.
Nouveau livre.
Ouais, mais tu vois, il y en a trois qui vont s'enchaîner, mais très rapidement. C'est pour ça que c'est vraiment bizarre, la façon dont ça a été découpé. Dans la boîte. Le 27 mars, deux semaines après l'envoi des lettres sans réponse et la découverte de signes troublants autour de la maison, Andy a l'intuition. Quel nez, qu'il est temps de partir et ils font leur bagage au désespoir de Charlie qui sait que ça ne finira jamais. Au même moment, Rainbird et ses hommes sont en place, prêts à intervenir pour capturer Andy et Charlie. Mais seul Rainbird est armé. Il ne fait pas confiance aux autres. Andy et Charlie sont prêts, toujours avec cette intuition que quelque chose ne va pas. La petite réitère sa promesse de ne plus déclencher de feu. Andy la prend dans ses bras et ils sortent du chalet dans la lumière. Rainbird, à 150 mètres de là, épaule son fusil, vise Charlie et pfft, une fléchette tranquillisante part. Charlie s'effondre à côté d'Andy. Lui, un accès de colère le prend et paf, un coup derrière la nuque. Le plan s'est déroulé sans accroc pour la boîte.
Est-ce que d'ailleurs c'est là aussi où les mecs qui accompagnent Rainbird, ils sont moyen chauds par la mission parce que le fiasco de la ferme c'est un peu... ébruité.
Oui, ça c'est connu.
Du coup, il n'y a pas trop de volontaires pour ce genre de mission maintenant.
Non, alors, il n'y a pas trop de volontaires pour la mission. Et voilà, et Rainbird leur file la chocotte aussi. Hein.
Oui, c'est pas faux.
Ouais, il leur dit en gros, si ça ne marche pas, vous allez crever. Enfin, vous serez de la chair à canon. Quoi. Mais ça devrait fonctionner vu que c'est moi qui fais.
Et il nous prouve qu'il a raison.
Certes.
Nouveau livre, La panne. On se retrouve presque 5 mois après l'enlèvement. À l'aube d'un orage d'été qui va provoquer un carnage et un immense gâchis. Ok, narrateur, on a compris. On retrouve Rainbird habillé de blanc comme le petit personnel de la boîte. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'il est sous couverture pour réussir à gagner la confiance de Charlie. Pour Rainbird, alors dans le livre, ils traduisent petit personnel là par c'est un factotum. C'est
un factotum.
C'est un mot que j'ai lu, mais que je pense que dans des livres de King. Pour Rainbird, Charlie est un coffre-fort à percer, une dure à cuire toujours sous l'influence de l'éducation d'Andy, et il va devoir la percer couche par couche. Malgré les drogues, elle résiste à la boîte, et jusque-là, même à Rainbird, qui n'a pas réussi à sympathiser avec elle. Elle est simplement sans réaction. Aujourd'hui, il doit laver le sol chez Charlie, et il va à nouveau tenter de la faire réagir. Juste un sourire ou une moquerie envers la boîte prouverait qu'il a trouvé un angle pour effeuiller le coffre. Il sent aussi que le temps presse, car les gros malins de la boîte sont prêts à envisager des moyens plus radicaux pour débloquer Charlie. Torturer son père, ou des électrochocs. Classique. Il est 15h. L'orage éclate. Il fait sauter le système électrique ainsi que les générateurs de secours achetés au rabais. J'ai bien aimé cette, cette petite description de tout le cheminement pour acheter des trucs avec les copains, les trucs pas chers. La corruption du gouvernement. Cette coupure va avoir de graves conséquences pour Andy et Charlie. Petit point Andy. On le retrouve abruti de drogue et de télé dans une cellule confortable. La boîte mène des tests sur lui, mais au bout d'à peine un mois ou deux, Andy ne peut plus pousser. Son talent est épuisé ou un mécanisme de défense l'empêche de se tuer à la tâche. Il semble en pleine dépression après ses mois de cavale.
Alors sa cellule, c'est pas une cellule, c'est un appartement.
Oui, c'est un appartement, effectivement. Donc il a la kitchenette, le frigo avec plein de soda dedans.
Ouais, je confirme que les médicaments qu'on leur donne sont violents. Je sais plus long que ça, mais j'ai vite fait regarder quel... Ouais, qui est un antipsych... Non, je sais plus à quoi. Enfin bref, c'est violent. Donc c'est normal qu'il soit tout le temps hébété.
Et donc l'orage, la coupure d'électricité et le noir total. Andy panique. Personne ne vient le chercher et il est en manque. Autour de lui, il entend comme des bruits de panique et d'étranges bruits sourds. Il finit en PLS devant son frigo, se pissant dessus de peur. C'est vraiment plus le même.
Il se pisse dessus ?
Parce qu'il est en panique entre le manque, la peur, il est dans le noir total. Et il est claqué, quoi. C'est plus le Andy qui fuyait avant. Hein. Il est...
Je me rappelais pas qu'il était si perturbé par ça.
Bah, en fait, je crois qu'il s'est renversé du Sprite dessus et du coup, il se pisse dessus. Parce que
c'est enchaînement logique.
Dans sa tête, il se dit... Bon, j'en suis, hein, faudra changer de slip.
Je sais pas où est la commode.
Je vais tester les bulles, ça doit être agréable.
Un geste pour la planète.
Il y a le pipi sous la douche et il y a le pipi dans un pantalon qui est déjà sale.
Qu'a du Sprite.
On retrouve Rainbird juste avant l'orage, en train de passer l'aspirateur chez Charlie. Celle-ci s'enferme dans la salle de bain pendant le ménage et on a droit à un petit flashback des derniers mois. Au départ, il l'avait confié à une mère de substitution, mais Charlie négocie son départ. Ensuite, les tests, les privations. Le docteur Hockstetter n'est pas content. Il n'arrive pas à franchir le blocage de Charlie, qui ne veut plus allumer de feu, même pour revoir son père. Elle a senti que son pouvoir devenait plus incontrôlable, plus addictif même si elle l'utilise. Et pendant ce temps, un homme au visage ravagé, qui a l'air plutôt sympa, s'occupe du ménage de sa chambre tous les jours. Et on comprend que le manège de Rainbird fonctionne par le simple intérêt poli qu'il lui manifeste.
Alors, est-ce qu'on revient sur... Enfin, je reviendrai dessus, mais Hockstetter, ça dit rien à personne.
Bah, si. Oh, dans ça, c'est un des méchants de la bonne à Bowers.
Qui porte le même prénom. Ah. Et ce qui est très perturbant, et je reparlerai dans mes connexions, c'est que... vu qu'on a déjà fait ça, on peut en parler. Patrick Hockstetter, dans ça, il décède. Donc, le truc qui est bizarre, c'est que c'est pas un nom, prénom qui est très commun. Donc, ça serait facile de dire, en fait, c'est le même personnage. Bah ouais. Et en même temps, bah, en fait, non, il est censé être mort. Donc, peut-être qu'on est dans une autre version de notre monde à nous. Mais j'y reviendrai rapidement.
Ça peut pas être son fils? Ni son père, je crois, au niveau chronologie.
Non, ça colle assez bien de dire s'il disparaît à 11 ans dans ça, il réapparaît parce que c'est 20 ans plus tard, Charlie. Donc,
c'est un de ceux qui disparaît gamin.
Oui.
Enfin, ouais, c'est un des méchants.
Dans le bouquin, pour moi, il est quand même bien mort. Hein. Il fait pas que disparaître.
C'est un des copains d'Henry Bowers. Oui. En fait, il meurt dans le bouquin et c'est confirmé dans 63 qu'il meurt. Donc ça, j'ai eu un doute à un moment donné pour en avoir discuté sur le Discord de Stephen King France. En fait, on a retrouvé qu'il meurt bien dans ça, que c'est confirmé dans 63. Donc la théorie que c'est lui tient pas trop, sauf si on se dit que peut-être que c'est une autre version de lui, un autre étage de la tour, quoi.
Ok.
Dans l'idée. Mais c'est, tu te dis, ouais, le chapeau magique des prénoms de King, là, pour faire un Patrick Hockstetter,
ouais, là, c'est
avec
vraiment...
le même nombre de T, le H et tout, ouais, c'est... ouais.
Il est peut-être feignant.
Ouais, ou il a oublié.
J'ai oublié entre les deux. Ah, quand même, quand même.
À ce point-là, quand même.
Ouais, c'est sympa, ouais. Ou alors il s'amuse à semer des trucs comme ça juste pour.
Mais la charge mentale des écrivains, ils doivent se souvenir de tous les prénoms qu'ils utilisent. On en parle pas.
Tu parles.
Mais lui, il en donne à tous les personnages. Non, mais il serait pas obligé.
Au moment où il a écrit Charlie, il avait déjà rencontré le succès. Mmh. Il a 50 personnes qui le relisent derrière et qui peuvent dire, dis donc, Steve, c'est bizarre là, le prénom qui revient. Est-ce que c'est voulu? Mmh. Donc non, il a zéro charge mentale, il y a des gens qui font des recherches pour lui. T'inquiète pas, il est
d'accord. Lui,
il remercie Robin Firth régulièrement dans La Tour Sombre, hein, pour avoir tenu à jour.
Ben oui, oui. Oui, oui, et dans 2263, toute la recherche historique et sur les complots, les théories du complot et tout, oui, oui, non, il est aidé, quoi. Il pose des questions à des médecins pour des parties très techniques, pour certaines nouvelles. Non, ça, maintenant, c'est ok, quoi, maintenant, tu vois.
Ok.
Soudain, les lumières s'éteignent. Charlie s'inquiète et Rainbird, de son côté, commence à jouer une comédie de traumatisé du noir. Il demande de l'aide à Charlie, ce qui finit par fonctionner. Et Rainbird poursuit sa comédie. Confession sur le Vietnam, des camps de prisonniers. À l'extérieur, il a peur. À l'intérieur, il jubile. Son plan fonctionne.
Manger des araignées au fond de mon trou, la jeune.
Il se cache, c'est avec la main, genre.
C'est ça.
De... Ouais, voilà, exactement.
Ouais, c'est ça. Son plan fonctionne enfin.
Ah non.
Il est
trop
en train
bien.
De percer le coffre. On comprend que son but final est bien
couche.
De la tuer, hein, quand même, de voir la vie quitter ce petit corps. On retrouve Andy. Tout...
Il est de plus en plus pervers quand même. Quand on raconte ce qui se passe dans sa tête, c'est
ouais,
malsain.
C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, tu sens qu'il est perturbé. Hein.
Après, il me semble à la base, il veut vraiment la tuer. Et au fur et à mesure, il a envie de la tuer et de mourir aussi. Mais je ne sais pas si à ce moment-là, il pense déjà ça.
Non, je
ne me
souviens pas trop de cette...
Je crois que c'est un peu plus tard.
Ouais.
Ouais. Donc il y a un truc avec la mort, quoi.
On retrouve Andy, toujours prostré dans sa pisse. Il est pris d'une prémonition soudaine. Charlie est en danger. Et cette seule réalisation lui permet de contrôler sa panique et de se remettre en selle. Il se chante...
Moi, bravo.
Il serait temps. Il se change et cette intuition toujours présente à l'esprit. Il pense que son talent est revenu. Comme si le danger pour Charlie était la béquille lui permettant de dépasser ses propres blocages psychologiques. Maintenant, il souhaite même retrouver sa poussée. Il s'endort avec, pour une fois, un sourire aux lèvres. Et Andy se met à rêver. De Charlie et d'un pirate borgne faussement amical, mais aussi d'une ancienne obsédée de la nourriture qu'il a aidée avec son don. Et il se souvient maintenant qu'il a jeté son don aux ordures de lui-même, métaphoriquement, hein, dans les pièces de son esprit, mais il va retrouver ce muscle toujours présent dans son cerveau.
Quand tu dis dans les pièces de son esprit, c'est King qui l'explique comme ça ou c'est toi?
Non, c'est lui qui l'explique comme ça. Hein, dans son esprit. En gros, il y a une pièce, il y a une poubelle. Il a acheté son. C'est lui qui s'est fermé une porte, quoi, en gros.
Là, c'est marrant parce que dans Doctor Sleep, la petite fille qui a le Shining, on l'a fait Doctor Sleep
non.
ou pas? Non, on l'a pas fait.
On n'a pas fait.
On
a vu le film.
Ah oui, on avait fait un série
avec...
sur le film. Bah en fait, elle gère son pouvoir comme ça, avec des en fait une pièce mentale où elle a je sais plus des armoires
ou
des tiroirs, un truc comme ça.
Ah ouais. oui.
C'est la même chose. C'est marrant de retrouver, tu te dis, il y a d'avoir 30 ans qui séparent les deux et en fait, il a toujours la même idée.
Il y a une
idée,
façon
quoi.
Dont il se représente les pouvoirs de ce type-là qui en soi en plus assez classique quelque part quand même. Mais ouais.
Oui, j'allais dire ça, c'est classique. Mm.
J'ai un doute soudain. Est-ce que tu viens de dire grand poil? C'est dans ce livre que lui, il aidait les gens à maigrir ou avec sa poussée.
Oui,
ouais, c'est
à maigrir, à arrêter de fumer, des choses comme ça.
Ouais, là, c'est
là,
surtout.
Sur
celle,
dans celui-là, c'est, il avait l'exemple.
Des chefs d'entreprise. Ouais.
On nous décrit un exemple
des
en particulier.
Des gars dans des entreprises. Okay. Ouais. Pour qu'ils aient. Qu'ils prennent confiance et, genre, t'as 80%, ils ont eu une augmentation. Enfin. De poste, je sais plus comment on dit, bref.
Promotion.
Ça marche très bien. Promotion, merci beaucoup.
Andy se réveille avec un mal de crâne, comme s'il avait poussé quelqu'un assez fortement. Mais il n'y a personne sauf... une guérison de son addiction à la thorazine ? Pas d'effet secondaire gênant ? Pas de zone insensible sur son visage, à part une migraine gérable ? C'est un nouvel espoir qui étreint Andy devant les possibilités de se pousser, se guérir. La puissance de son don l'étonne et lui donne l'occasion d'échafauder des plans. Lorsque la lumière revient, il joue la comédie de l'homme abruti par les drogues pour les caméras qui ont certainement repris leur surveillance. Donc en fait, il s'est poussé lui-même.
Ah, ok.
On retrouve Charlie et Rainbird toujours dans le noir. La peur et le désespoir de l'homme ont poussé Charlie à la confession et elle a littéralement déversé tout ce qu'elle retenait en elle. Pour finir de l'appâter, Rainbird lui propose de faire passer un mot à son père pour le rassurer. Après ça, il sait qu'elle lui appartient. Et effectivement, Charlie pense avoir un nouvel ami. Rainbird essaie de la convaincre d'allumer des feux. Légitime défense précédemment. Alors là vraiment, il y a un truc... j'étais pas là. Hein. Donc bref, qu'avant, elle avait raison d'allumer des feux parce que c'était légitime défense. Et que là, maintenant, le docteur Hockstetter mériterait bien d'avoir un peu chaud au feu. Et Charlie rigole bien et réitère son vœu, mais réitère son vœu de ne plus se servir de son pouvoir. Il sent qu'il doit s'arrêter et qu'il discute avec Charlie jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur son bras. Arrête de rigoler.
Non mais je rigole parce que servir, il y a marqué serve mort et on dirait un nom d'endroit genre dans les terres du
milieu. Ouais, non mais là j'essaie de lire un peu plus en avance parce qu'il y a des
mots
que j'ai pas bien...
Ouais, t'inquiète pas.
Ça passe.
Donc, lorsque la lumière revient, il la couche, l'aborde et lui fait même un bisou sur le front. Il est mignon. Charlie, dans son sommeil, lui dit « Bonne nuit, papa ».
Il l'aime. Il l'aime vraiment.
Oui, sa manière un peu chelou, bizarre, quoi.
Oui, voilà.
En sortant, Rainbird croise le doc, tout excité par ce qu'il s'est passé. Mais devant son manque de discrétion, il le menace et le doc manque de se pisser dessus.
Ah oui, je me rappelle de ça.
Oui, il le prend vraiment entre quatre yeux. Et je pense qu'il est plus grand.
Entre trois yeux, mais...
Entre trois yeux, pardon.
Entre trois yeux.
Petit feu, Big Brother. C'est la rentrée des classes. Charlie s'est laissé convaincre d'avoir des tuteurs. Rainbird prend des risques en lui donnant des nouvelles de son père. C'est complètement bidon. Et Charlie en vient à respecter son opinion, un peu comme elle le faisait avec son père. John, de son côté, continue à la pousser doucement à avoir envie de déclencher des feux. Des petits pour satisfaire les docs pour commencer. Et on voit Charlie parler d'elle-même, de son pouvoir, tout en ayant la crainte de devoir en faire toujours plus avec. Mais Rainbird pique son intérêt, car elle pourrait négocier des privilèges en échange de ses démonstrations. Peut-être même voir son père, pense-t-elle. Rainbird ne lui fait pas croire le contraire, mais sait que ça n'arrivera jamais, vu qu'il n'a jamais vu Andy. Avec leur connivence, John continue le travail de sap. Et finalement, Charlie décide de coopérer avec le doc. Elle tient les rênes. Cette décision a l'air de les rapprocher encore plus. On retrouve ensuite Hockstetter et Rainbird dans le bureau de Cap. Le doc n'est pas content, car avec l'idée de revoir son père, Rainbird a mis une date limite à la coopération de Charlie. Mais il sait que Charlie est maligne et y aurait pensé d'elle-même. Et il a juste trouvé un moyen de la devancer et donc de consolider leur relation. Alors j'ai mis il, mais en fait c'est Rainbird, pardon. Cap comprend aussi que ça lui permettra de la tuer lorsque le moment viendra. Donc pareil, cette note finale du plan de Rainbird. En attendant, il faut trouver toutes les petites carottes qui permettront de faire avancer Charlie avant la confrontation finale. De son côté, Andy vient de passer 3 semaines stressantes avec son nouveau secret et son plan en train de mûrir. Il a décidé qu'il tenterait de pousser le docteur Pinchot, qui est son docteur attitré, lors de la balade du jour. Il est persuadé qu'ils ont abandonné tout espoir pour lui.
Ouais, parce que lui, il est nul au test.
Bah, il est nul au test, il monte plus aucun pouvoir, plus rien du tout.
Entre-temps, Minkal nous a fait le CV de Rainbird. Peut prendre les gens...
Non, ne lis pas, sinon je vais rire.
Ça en jette hein, sur ton CV
ça fait,
dans les hobbies.
Ça fait une pure biotineur, le... ça.
Wow. Et Loli...
C'est ce qu'on appelle les...
Loli fan.
C'est ce qu'on appelle les mad skills, maintenant. Mad... Terme, on avait les soft skills, on avait les hard skills, il y a les mad skills. qui sont en fait c'est les vrai. Hobbies. Hein. Mais c'est oui. plus, ça fait plus intelligent de dire math skills.
Ouais, c'est ça.
Foutu, ah, j'avais pas vu ce que c'était. Ok.
Et donc, effectivement, lors de la balade, le docteur lui dit qu'il pense rédiger un rapport avec une recommandation pour qu'il soit envoyé dans leurs installations de Maui. Ça a l'air sympa d'aller au soleil.
Hawaï.
C'est Hawaï, Maui.
C'est il me semble qu'ils disent que c'est sur l'archipel d'Hawaï, mais je vais vérifier.
Peut-être. C'est l'occasion dont profite Andy pour le pousser à recommander une dernière série de tests, et donc à peu près 3 mois de rab à la boîte. La poussée suivante pour en savoir plus sur les environs directs provoque un effet mitigé qui semble indiquer que le docteur n'est pas très stable dans sa tête.
Jean-Michel Passerin confirme que c'est bien Hawaï, c'est la deuxième plus grande île de l'archipel.
Très bien, je suis très mauvais en géographie.
C'est pas mal, hein, c'est un bon score, 2 sur 2.
Et c'est quoi la première ? Je veux savoir.
Ok, Jean-Michel Passerin revient.
Andy arrive quand même à choper quelques infos, mais coupe court avant d'avoir plus de nouvelles, avant d'avoir pu avoir des nouvelles de Charlie. On a ensuite un petit échange de mémos entre Hockstetter et Pinchot. Hockstetter valide cette dernière série de tests, mais pour 2 semaines seulement, et en prenant le docteur Pinchot de bien haut. Bien arrogant.
Alors la plus grande île de l'archipel d'Hawaï s'appelle Hawaï.
Ah merde, c'est trop facile. Oh. Je m'attendais à un nom un peu justement maoï, très compliqué avec 20 000 syllabes.
Non.
Et pour répondre à...
J'ai bien aimé les... Ah, pardon, je coupe tout.
Non, on a tous les trois parlé en même temps.
J'ai bien aimé les mémos à la vieille...
Ça ressemblait presque à des télégrammes, quoi.
Je pense que c'était dactylo... Ouais, bah, je pense que c'est dactylographie.
C'est bien à l'ancienne, quoi, le fait de faire des mémos de service.
Ouais. Ouais,
juste
c'est
pour
ça,
se parler
j'ai
à
bien
deux,
aimé,
en plus, hein.
Et en plus... Ouais, c'est l'ancêtre des mails. Et je sais plus qui fait une grosse blague de merde à l'autre. Et je trouvais ça... Enfin voilà, ça m'a rappelé un peu le avant les mails.
Tu aimes les correspondances épistolaires?
Bah, écoute... Les 20 premières années de ma vie, enfin, les 15-20 premières années de ma vie, c'est un peu ça. Hein.
Et pour répondre à DJ Paragon dans le chat qui proposait Oahu comme première île, enfin, en tout cas comme île la plus grande de l'archipel d'Hawaï, non, en fait, c'est la troisième. Voilà.
Mais c'est la plus peuplée.
Ouais, j'allais dire, ouais, c'est vraiment par la taille.
On va aller lâcher Wiki, maintenant, ça suffit. Hein.
Non.
On va jamais s'en sortir de cet épisode.
À la réception du dernier mémo, donc, on en apprend un peu plus sur la vie de Pinchot, ses penchants pour le travestissement profondément enfoui. Le fait de ne pas avoir obtenu 3 mois plus la poussée d'Andy menace de transformer l'écho en ricochet, des termes techniques d'Andy, hein, et d'avoir des conséquences pour le docteur. Effectivement, on verra ça plus tard.
Non mais c'est pareil, le concept de ricochet, je trouve,
ouais,
comprends tout de suite. Quoi.
Très parlant, ouais. Ça j'ai vraiment adoré.
Ouais. C'est bien fait, ouais.
C'est le jour du premier test pour Charlie. Mais rien ne va dans la pièce. Trop de choses inflammables, dont l'assistant du doc. Et c'est Charlie qui leur dit. Hein. Et les gars...
C'est de la merde.
Jean-Michel, prévention du feu.
Ah ouais, le trigger est énorme, là.
Donc, ils doivent mieux se préparer. Et ils recommencent donc tout ça. La détermination et un soupçon de menace de Charlie ternissent un peu le sourire d'Hockstetter. Donc tu sens quand même qu'elle prend un peu la confiance et le contrôle. Et donc, Rainbird, le Doc et Cap sont derrière le miroir centain. Une fois branché à l'EEG, ils constatent que Charlie est considérablement effrayé. Le test est lancé, et au lieu d'une petite poussée, Charlie fait littéralement exploser les copeaux de bois qu'elle devait enflammer. La température dans la pièce monte vite et fort. Le technicien qui monitore les appareils prend peur et s'enfuit en courant. Derrière la vitre, 2 hommes jubilent et le 3e est fier de sa protégée. Charlie reprend le contrôle difficilement et s'aperçoit que son pouvoir est devenu bien plus puissant. Elle est aussi laissée en liberté et seul Rainbird s'en est aperçu, le technicien ayant tout laissé ouvert en se barrant.
Mais elle ne s'enfuit pas.
On retrouve ensuite Rainbird et Charlie au bord de l'étang à discuter tranquillement. Après le test, elle a été ramenée dans sa suite par Cap et une réunion extraordinaire a eu lieu. Les scientifiques apeurés veulent la remettre sous drogue, ignifuger sa chambre. Rainbird tape du poing sur la table. Ça ne sert à rien. La fillette va mieux, a de l'appétit et demande quelques jouets. Si elle avait voulu brûler sa chambre, ce serait déjà fait. Rainbird confirme à Charlie qu'elle fait peur à tout le monde sauf lui. Il se dirige ensuite vers les écuries. Charlie tombe amoureuse du cheval Necromancer. Et pendant qu'elle le flatte, Rainbird a un sourire étrange qu'elle surprend. Une mauvaise intuition lui vient à son sujet. Mais le cheval est plus important pour le moment. Donc il y a la petite fille qui se débat encore avec l'adolescente. Qui sent des choses mal chez les gens. En attendant, Rainbird lui apprend à négocier en échange de petits feux. Il faut y aller progressivement, dit-il, avant qu'elle puisse voir son père. Le soir même, on a un petit aperçu des loisirs de plusieurs personnes. Hoxtetter fait des maquettes en rêvant de gloire et d'argent. Pinchot se masturbe en habit de femme devant son évier, en pleine crise de ricochet, et Cap et Rainbird sortent un cognac. Ils discutent des soupçons du docteur Wanless sur la puissance de Charlie. De combien de temps ils pourront tenir la bride avant de faire intervenir le plan B? Rainbird rêve déjà de ce plan B, quand il pourra regarder la vie de Charlie s'écouler de ses yeux. Allez, retournons auprès d'Andy. Une semaine après avoir poussé Pinchot, il est dans une impasse. Sous surveillance constante et avec le docteur prêt de craquer, il doit trouver un nouveau plan. Pinchot va lui donner une belle occasion en se suicidant, et on en parle juste après. Deux gorilles viennent le chercher pour l'amener chez Cap. Celui-ci va lui annoncer le suicide de Pinchot et guetter ses réactions pour voir s'il en est responsable. Andy arrive à se contrôler, du moins jusqu'à ce que Cap lui annonce qu'il va partir pour Maui dans moins de 10 jours. Andy décide donc de le pousser. Le bureau du chef ne doit pas être sous surveillance. Il apprend ainsi, grâce à cette poussée, que la position de Cap est précaire après tous ses échecs, mais que Charlie a accepté de faire des tests pour eux grâce au bâton et à la carotte. Andy pose enfin la bonne question et découvre qui est Rainbird. Cap déballe tout pendant 5 minutes. En colère, il continue de pousser. Il veut être présent avec Cap à l'enterrement du docteur et ils en profiteront pour discuter des détails de la détention de Charlie. Il pousse tellement qu'il en pleure, ce qui servira à sa pseudo-tristesse en sortant du bureau. Il a tout donné. Il sort donc en pleurant sous l'œil dégoûté de l'assistante et des gorilles qui le raccompagnent.
C'est là où on apprend que lui, il a peur des serpents.
Oui. Il joue au golf et il a peur des serpents. C'est peut-être un peu plus tard, parce que dans les deux cas, il aura poussé. C'est peut-être dans la voiture un peu plus tard. Pendant l'enterrement.
Oui, il commence à se mettre à fouiller partout pour voir s'il n'y a pas des serpents.
Quand il pète un câble.
Au début, c'est surtout les trucs de golf et après, c'est les serpents et ça va devenir de pire en pire. Donc, un ricochet en fait.
On finit cette partie sur Charlie qui fait un rêve cauchemar récurrent montant Necromancer à l'étalon noir. Et je crois que j'ai pas mentionné dans le reste du résumé que Andy, lui, son pouvoir, il le voit sous la forme d'un étalon noir. Je sais pas s'il y avait un vrai rapport. Parcourant les lieux, au milieu de feux qu'elle déclenche à l'image de ceux des tests, elle jubile jusqu'à ce qu'une silhouette étrange et familière à la fois surgisse des ombres. Armée d'un revolver, celle-ci s'apprête à abattre le cheval lorsque Charlie se réveille, toujours à ce moment du rêve, avec un grand sentiment de trahison. Fin de partie. On se rapproche.
On arrive au bout.
Une nouvelle pièce de test a été aménagée pour les tests de Charlie dans l'ancienne chapelle de... Dans l'ancienne chapelle de la boîte.
Charlie, tu peux dire Charlie.
Ouais, mais ça fait chapelle. Bizarre. Charlie. Charlie devient de plus en plus habile avec son pouvoir et fait brûler des murs de parpaings avec précision. Sacré entraînement. Même les mémos entre services montrent qu'il commence à avoir peur de Charlie. Elle a pu produire une chaleur de 16 000 degrés sans forcer et a priori sans dépenser de calories ou presque. D'où vient cette chaleur?
Puis encore, je crois 16 000, c'est ce qu'ils ont pu mesurer. Donc c'est supposément beaucoup plus. Enfin, plus.
C'est au-dessus de 9 000.
Ça fait bizarre en France.
Oui, ça rend pas pareil. Le jour de l'enterrement de Pinchot est aussi le jour où Charlie réclame de voir son père à Hoxtetter. Après les derniers mémos et expériences, il a peur d'elle. Et Charlie, qui s'est bien entraîné, commence enfin à comprendre qui commande. Elle. Mais elle a besoin de son père pour savoir si elle doit poursuivre tout ça. Jusqu'où peut-elle aller sans que ce soit mal? Les blocages sont pas tout partis. L'enterrement est une épreuve pour Andy. Malgré ce qu'il a subi, il se sent coupable pour la veuve et les deux enfants de Pinchot, qui devront vivre avec le scandale. Alors, je l'ai pas dit, hein, je crois, il s'est suicidé. Il a mis son bras au fond du...
Ah oui, du Sani Broyeur. Enfin, pas du Sani Broyeur, mais du
broyeur dans les vieilles, là. C'est un broyeur à ordures.
Et puis, il était habillé en femme.
Il était habillé en femme.
C'est ça.
La totale. Sur le chemin du retour, il pousse Cap pour que celui-ci avance son départ pour Hawaï de 3 jours et essaye de rassembler un maximum de détails sur le trajet. Au moment où il fait en sorte que Charlie l'accompagne, il doit pousser très fort et faire mal à Cap, car celui-ci est très réticent. Elle est trop dangereuse. Il lui demande aussi d'éloigner Rainbird ce jour-là. Et pour finir, il lui donne un papier pour Charlie. Andy s'effondre dans son lit, et le lendemain, les points insensibles sur son visage sont revenus. Il est proche de se tuer à pousser aussi fort. Cap, dans son bureau, se prépare à organiser le nouveau voyage d'Andy quand il reçoit le rapport hystérique d'Oxtetter. Ça arrive plus tôt que prévu, mais bon, elle va le voir, son père. Il arrive à joindre le responsable du vol et prend les arrangements décidés par Andy. En cours de conversation, on comprend vite que Cap est en pleine crise d'écho après la forte poussée d'Andy. Donc il commence à parler beaucoup de golf et de serpents, là. Et en portant le message à Charlie, celle-ci s'en rend compte très rapidement aussi. Mais du coup, ça lui donne espoir. Après le départ de Cap, Charlie attend un long moment pour lire sa lettre. Andy lui révèle la date de leur départ, ainsi que certaines choses nécessaires. Mais le pire est le plus bouleversant pour Charlie. Rainbird est un traître, et elle va devoir continuer à jouer la comédie. Elle va se débattre avec cette idée jusqu'à s'endormir, et retrouver son rêve familier, et enfin voir le village de l'homme qui se cachait dans la lumière. À votre avis ? Rainbird, madame, mais il n'y a personne qui veut le dire !
Rainbird...
Je voulais pas spoiler,
le dire parce
ça
que je dois le dire fort.
Oxtetter est appelé en urgence dans la nuit. Charlie a fait un cauchemar et la température grimpe jusqu'à son réveil. Elle évapore l'eau des chiottes et retourne se coucher. Le doc a peur. C'est vraiment, tu sais, quand un petit pipi nocturne, elle vide le trop-plein de, le trop-plein de pouvoir. C'est parti. Après ce cauchemar, Rainbird sera accueilli froidement par Charlie. Prétextant une mauvaise nuit, mais cela déclenche une alarme chez John. Il se demande si Cap n'essaye pas de le poignarder dans le dos avec cette première visite à Charlie la veille, parce qu'il n'avait jamais été la voir de lui-même, Cap. Le même soir, Cap continue à obséder sur le golf et les serpents. Ce n'est qu'en se saoulant qu'il arrive à garder le contrôle. Rainbird, de son côté, mène l'enquête. En regardant les bandes vidéo, il constate aussi le comportement singulier de Cap et la transmission du message. En interrogeant l'ordinateur sur les capacités d'Andy, il arrive à la conclusion qu'il les a récupérées, justement, ses facultés. L'ordinateur a calculé en effet des probas plus élevées une fois que les comportements de Pinchon et Cap lui sont soumis. Les McGee ont un plan de fuite. Il est quand même balèze, ce Rainbird.
Et ouais.
Surtout balèze cet ordi.
Ouais, aussi, ouais. Il faut savoir lui poser aussi, des bonnes questions, ouais. Hein, ça n'a pas l'air simple.
En plus, il dit bonjour et il dit au revoir.
Il est plus poli que la moitié de Paris.
C'est ça.
Le lendemain, il apprend de Cap qu'il doit partir à San Diego. Il n'a pas la moindre intention d'y aller, mais accepte. Il sent qu'il pourrait le faire vriller en le contredisant. Et vriller vraiment au sens. Pas juste l'énerver, hein, c'est la crise de ricochet commence à être vraiment visible. Utilisant les codes de Cap, Rainbird annule son ordre de mission et réfléchit au plan probable d'Andy. Il le devine aisément dans les grandes lignes et s'amuse de cette fin de partie, tout en sentant monter l'excitation de son rendez-vous avec Charlie et la mort. Il finira sa nuit en engageant un avocat pour mettre ses affaires en ordre. Lesquelles, rien de bon pour la boîte probablement.
J'allais dire une blague, technique employée par Mathias Pogba aussi, pour relayer ses vidéos sur Twitter une fois en prison, quoi. cette référence va très mal vieillir dans 10 ans, mais c'est pas grave.
C'est ça. Boutefeu, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est le jour J, et Charlie se prépare normalement et fait sa demande pour aller voir Necromancer l'après-midi. Elle espère que personne ne la bloquera. Andy, de son côté, est excité comme une puce. Il a mal dormi. Il a reçu le programme de son départ, ainsi qu'une liste de ses effets personnels à signer pour inventaire. Cap arrive en retard au taf. Il a la capacité de concentration d'un bulot, ne veut que suivre les instructions d'Andy et éviter les serpents. Il a hâte aussi d'être au moment du départ pour qu'Andy lui dise quoi faire ensuite de sa vie. Il l'a vraiment ravagé.
Ouais, il l'a bien défoncé, ouais.
Rainbird, de son côté, arrive dans la salle de contrôle pour vérifier Charlie et son emploi du temps. Il fait comprendre au surveillant en place qu'il n'est jamais venu et qu'il doit rester discret jusqu'à son départ. Il apprend que Charlie sera seul à l'écurie, uniquement sur la surveillance des palefreniers, pas d'agents. C'est étrange.
Les palefreniers.
On vient chercher Charlie à 12h45. Rainbird a pris les devants et a renvoyé tout le monde de l'écurie. Il se planque dans les ballots de paille au grenier. Charlie arrive avec l'agent qui ne veut plus partir. Aucun palefrenier n'est sur place et il trouve ça bizarre. Mais Charlie se met en colère et elle le convainc de partir. Ok, il a eu un petit coup de chaud pour le motiver, mais bon.
Ça aide.
Rainbird jubile en suivant l'échange et comprend que ce sera le lieu de leur dernier rendez-vous. Il ne se tient plus et appelle doucement Charlie. Celle-ci, en colère, a l'air prête à foutre le feu à l'écurie. Du côté d'Andy, un Cap mal en point vient le chercher. Andy doit commencer à pousser plusieurs fois pour calmer Cap et corriger les bourdes, mais ils arrivent à filer à l'heure pour récupérer Charlie à l'écurie.
Je comprenais pas pourquoi il y avait marqué corriger des bourses.
Des bourses. Je me connais.
Tu te relis vraiment très bien.
Mais je l'ai même pas. J'ai même pas vu qu'il y avait marqué bourses. Hein. Mon cerveau a transformé.
Corriger des bourses. Je me disais, quoi ?
Mais c'est là qui contrôle pendant 20 minutes. Il y a des serpents dans la voiture, dans la boîte à gants qu'il ouvre avec.
C'est pour ça qu'il est en retard. Hein.
Même pas ses mains. Ouais, il est complètement à l'ouest là.
Ils arrivent dans la chaleur étouffante de l'étable et Charlie, paniqué, essaye de les garder en dehors. Une ombre au-dessus d'eux leur dit qu'il est trop tard. On se retrouve du point de vue de Charlie, en recherche et en confrontation avec Rainbird, parce qu'elle sait toujours pas où il est, elle l'entend mais elle ne le voit pas. Celui-ci lui fait comprendre que malgré ses mensonges, il l'a maintenu en vie et c'est bien son ami. Et par une forme subtile de persuasion, de télépathie, pense-t-elle ? Elle se laisse convaincre assez facilement, car elle-même a besoin d'un ami. Elle se prépare à le rejoindre lorsque son père arrive, ce qui rompt le charme. Donc là, c'est le moment où tu te dis peut-être que Rainbird, soit il est vraiment très très malin psychologiquement, soit peut-être qu'effectivement, il arrive à...
Ouais, il a peut-être des petits pouvoirs aussi développés, mais c'est possible.
J'ai pensé entre deux... Mais plutôt, il doit être très doué.
Oui, je pense que c'est
doué.
Il a bien cerné la psychologie de Charlie. Il sait ce qu'elle veut et ce qu'elle est prête à faire.
Ouais, puis avec un enfant, honnêtement, c'est plus facile, quoi.
On est en plein Mexican stand-off. La poussée, le feu et l'arme de Rainbird. Charlie est en train de se laisser convaincre de le rejoindre contre la promesse de sécurité pour son père et Andy. Lui s'apprête à la pousser. Elle, lorsque Cap, pousse un hurlement. Donc son père était prêt à pousser Charlie pour qu'il se passe quelque chose. Pendant ce temps, l'agent qui accompagnait Charlie a donné l'alerte et tout le complexe passe en mode de combat. Tout le complexe ? Non, notre vieil ami OJ et le pompeur résistent à cet appel. Démerdez-vous les gars. Cap donc, ayant accompli ses instructions et n'en ayant pas de nouvelles, se trouve libre de se consacrer à son ricochet sur les serpents et les clubs de golf, jusqu'au hurlement et à l'attaque d'un tuyau d'arrosage à grands coups de râteau. Ce cri distrait suffisamment Rainbird pour qu'Andy puisse pousser une ultime fois jusqu'au claquement. Son pouvoir et son corps se brisent, mais John saute du grenier et se pète les jambes. Il trouve quand même le moyen de viser Andy et de le toucher. Il supplie ensuite Charlie de le rejoindre. Et il tire sur Charlie. À ce moment, son pouvoir éclate au plus fort. Jaillit d'elle dans un flash lumineux, suffisamment fort pour faire fondre la balle et ensuite la chair de Rainbird. Les agents à l'extérieur prennent des shrapnels et la fuite. L'écurie et les chevaux sont en feu. Elle est paniquée et a du mal à retrouver son père dans le brasier, persuadée en plus qu'il est déjà mort. Elle entend finalement Andy faiblement. Elle se précipite et ses derniers mots pour elle sont de tout brûler pour qu'il ne puisse étouffer l'affaire. Il meurt sur « Demja !» Côté agent, la panique se déclenche quand les chevaux fous de terreur s'échappent de l'écurie. C'est le massacre par les hommes tendus et une distraction utile pour Charlie qui sort à leur suite comme une déesse du feu vengeresse. Submergé par le pouvoir, la douleur et la vue des chevaux morts, Charlie déchaîne tout son pouvoir et flambe tous ceux qui essayent de l'arrêter. Elle a toujours la conviction
même
de ne pas tuer.
Pas de l'arrêter.
Oui, si, si, justement. Elle a toujours la conviction de ne pas tuer sauf si nécessaire et arrive à garder ce mince contrôle sur son pouvoir qui n'attend que de se déchaîner complètement. Elle passe ensuite à l'incendie méthodique des bâtiments de la boîte. Les humains et les chiens paniquent, s'enfuient, mais sont pris au piège des clôtures électrifiées. Certains tentent quand même leur chance. Charlie, de son côté, cherche un moyen de se calmer, voire contrôler son pouvoir, et se dirige vers l'étang. L'eau de l'étang se vaporise littéralement alors qu'elle déverse son pouvoir dedans. Et avec ça, l'horrible constatation qu'elle n'a fait qu'effleurer la puissance en elle, qu'elle aurait presque préféré mourir des mains de Rainbird. Charlie pleure sur son sort et reste prostré un moment. La brume finit par se lever. C'est un genre de ruine qu'elle laisse derrière elle, l'étang lui-même réduit à quelques flaques d'eau. Elle marche au milieu des décombres calcinés et des humains choqués. Certains la maudissent, mais Charlie sait que ce n'est pas de sa faute. Elle est maintenant libre et sait qu'ils ne pourront plus jamais l'arrêter.
Libérée, délivrée, c'est ce que je dis.
Là, elle a bien délivré, là.
C'est vachement, j'ai un souvenir super triste de ce passage. En fait, elle est seule, quoi. Tu vois,
oui.
T'as une espèce de désespoir qui transpire de ses émotions. C'est assez prenant.
Mais cette réalisation que, en plus, elle pourrait brûler la terre entière. C'est,
ouais.
Enfin, elle sent qu'elle sera toujours à part des êtres humains.
C'est ça.
Allez, on a presque fini. Charlie seul. L'affaire a été étouffée et un groupe terroriste désigné coupable. Charlie n'a pas été retrouvé et cela fait plus d'un mois maintenant. La nouvelle dirigeante de la boîte pense que si Charlie avait dû parler, ce serait fait. En attendant, le Lossi s'intéresse toujours, mais sans une Charlie morte, ils ne prendront pas le risque. De son côté, Charlie a réussi à retrouver sa route jusque chez le vieux Irv. Celui-ci, pendant sa convalescence, a reçu la visite du gouvernement avec un gros chèque et une grosse liste de menaces pour sa famille proche et éloignée. Il gardera le silence, mais accueillera aussi volontiers la petite. Charlie est blessé, et ils font venir le médecin de famille. Il n'est pas dupe, mais se taira, et demande aux Manders de bien réfléchir à ce qu'ils vont faire de la petite. Ils ne pourront pas la garder enfermée indéfiniment. Avec l'état de Charlie s'améliorant, Norma trouve les mots pour la rassurer. Elle n'a pas peur d'elle. À son âge, on doit pouvoir confier un couteau à un enfant, dit-elle. Et Charlie leur raconte tout. L'hiver passe, et pour le moment, Charlie est effectivement enfermé à la maison. Son état général va mieux, même si elle a toujours des cauchemars. Elle aide un peu, mais c'est risqué que quelqu'un la découvre. Elle surprend une conversation des Manders un soir, qui cherchent quoi faire avec elle. Qui prévenir pour être sûr que l'affaire ne s'ébruite pas. Mais pour le moment, personne n'est au courant, pense-t-il. Malheureusement, la nouvelle se répand au travers de la petite ville, en commençant par le docteur qui gardera le secret 3 mois, puis à chaque fois qu'une personne est impliquée, un peu moins longtemps. Et en avril,
qui confie le secret sur l'oreiller à sa maîtresse.
C'est ça.
Ah oui.
Et qui du coup, après, c'est une fois que ça part, ça part. Et donc en avril, un coup de fil est passé et les agents de la boîte retournent au petit matin à la ferme. Mais Charlie est déjà partie en ayant laissé un mot aux Manders. Elle sait quoi faire maintenant. On retrouve Charlie qui fait une petite enquête auprès d'un bibliothécaire sur quel journal serait le plus à même de prendre son histoire. Un conseil de son père. Toujours aller dans les bibliothèques. Et on la retrouve un peu plus tard à New York.
C'est mignon presque,
oui.
Ce passage.
Ah bah, le fait qu'elle se souvienne de son père, enfin qu'elle se souvienne de ses conseils comme ça, je trouve ça top aussi. Et donc à New York, elle finit par arriver dans les locaux de Rolling Stones. Ce que je trouve est un excellent choix. Et c'est la fin.
En plus, c'est marrant parce que Rolling Stones. Ah non.
Bravo, grand poil.
Ah, j'ai soif.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que Rolling Stone, c'est un surtout voilà, la partie magazine, parce que le journal, King il est très attaché parce qu'il fait très peu d'interviews en général. Et par contre, à chaque sortie, il a toujours une interview avec Rolling Stone. C'est toujours, depuis 30 ans, c'est la même personne qui l'interview et tout. C'est un journal de cœur pour lui.
On peut dire que c'est un
c'est
journal de gauche.
C'est pour ça que ça me disait quelque chose.
De gauche américaine.
Surtout, ce que voulait éviter Andy au départ, et ce qu'elle a compris de Charlie, c'est qu'il ne fallait pas le publier dans un journal de news. Enfin, de, tu vois, d'actualité, de,
ouais,
de reportage, choses comme ça. Il fallait trouver une porte un peu détournée.
Vous avez bien aimé cette fin ?
Oui.
Ouais, ça va.
Moi, je trouve ça très bien. C'est pas, ça clôt suffisamment l'histoire pour que. C'est vrai que ça pourrait être marrant de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait derrière.
Pour moi, c'est ok.
Mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
Voilà.
Ah ouais, c'est marrant.
Ouais.
Chat te remercie, grand poil.
Merci, merci. Merci, les chats.
Moi, je me souviens d'avoir un yes, tu vois, à la fin. elle va les dénoncer. Oui. Vraiment, ouais, un côté un peu revanchard, tu vois, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai pas envie de savoir ce qui se passe exactement après, tu vois. C'est pas une histoire qui m'intéresse. Juste de me dire, ok, elle prend le truc en main, elle va leur niquer la gueule, mais de la bonne façon, tu vois. De la façon qui fera pas d'elle un monstre. Et ça, c'est cool.
Est-ce qu'on passerait pas à l'importance du livre dans la bibliographie de l'univers de King?
Vas-y, lance ton jingle, t'en meurs d'envie. Ouais. Il fait une pause pipi, il a dit. Alors, je l'ai déjà dit, mais le titre original, c'est Firestarter. Il a été publié en VO en 80 et en France 4 ans plus tard, en 84. Et c'était déjà Albin Michel à l'époque. À sa sortie, le roman, il est resté 35 semaines, dont 3 à la première place sur la New York Times Bestseller List. Le Publisher Weekly l'a classé à la 5e place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 80, donc l'année de sa sortie. Et il a été nommé à El Famoso Prix Locus, terminant à la 8e place dans la catégorie, parce qu'on n'est pas un chelou triperet avec le Prix Locus, dans la catégorie science-fiction.
T'étais ironique quand tu dis El Famoso ou pas du tout?
Non, en fait, à chaque fois, le Prix Locus et le British Fantasy, c'est tout le temps des prix. Et le Locus, à chaque fois qu'on le retrouve, je le prépare pour les chroniques, ouais, c'est toujours dans des catégories un peu cheloues. Genre, je sais plus ce qu'on avait eu, genre le fléau en fantasy. Et tu fais, non, okay. En fait. Et là, cette fois-ci, Charlie, ils l'ont collé en science-fiction. Donc, pourquoi pas.
Je reviens.
Très bien. Ben, il n'y a plus personne. Parfait.
Mais... Non, mais parce que le son buggé. Donc, du coup, quand c'est ça, que je dois juste quitter et revenir. Normalement, dis-moi dans le chat si c'est bon.
Ok. En tout cas, moi, je t'entends bien.
Oui, pareil.
Je me disais... Donc, il a commencé à écrire Charlie quand il a mis de côté Dead Zone, sur lequel il avait du mal à avancer. Et pour toute la partie jeunesse, justement, de Charlie, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une nouvelle adaptation cette année, King, il a été interviewé en mai dernier, il a tout réexpliqué d'où lui vient l'histoire. Alors, il dit que l'idée lui est surtout venue de ses prises de LSD, et je cite, « J'ai pris beaucoup de LSD à l'université, et je me disais, et s'il y avait une sorte de drogue hallucinogène testée qui avait ses résultats inhabituels, provoquant des réactions psychologiques et paranormales chez les personnes ?» Puis il s'est demandé si ça se répercutait sur un enfant. Ce dont il se souvient le plus clairement, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un de jeune comme personnage principal et qui s'est dit « Et si deux personnes qui avaient participé au test avaient un enfant qui avait cette mutation, cette capacité à allumer des feux ?» Donc, on a perdu Julien.
Non, je rigolais.
Ok. On retrouve aussi un élément qu'on avait notamment pour le fléau, qu'en fait à cette époque il faisait pas du tout confiance au gouvernement, et il dit qu'on parlait encore du Vietnam à ce moment-là, et qu'il y avait une gueule de bois à la fin des années 70, et qu'il se passait toutes sortes de choses où on pouvait tout simplement pas faire confiance au gouvernement, et ça c'est un truc assez récurrent chez King dans ses récits, notamment les plus politiques. Donc dans ce contexte, il s'est dit que si de tels enfants existaient, bien sûr que le gouvernement essaierait de les garder, et de les utiliser. Il a aussi dit qu'à l'époque, il avait probablement à l'esprit deux infos qui avaient fait grand bruit en 77. La première sur des chercheurs qui parlaient de 200 étudiants qui auraient pris du LSD lors de tests financés par la CIA. Et la seconde sur des papiers de la CIA établissant un lien entre Harvard et un projet de contrôle des esprits. Et il ajoute qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'histoires effrayantes sur le LSD qui provoquaient des mutations génétiques chez les enfants et qu'on leur disait ne prenez pas ça ou vos enfants seront de monstres. Donc c'est vraiment, je pense que quand j'ai lu des critiques du livre pour un peu préparer cette chronique, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un de ses livres les plus paranoïaques. Je ne sais pas si vous avez senti la paranoïa en le lisant, mais juste lui, dans la façon dont il explique ce qui lui a fait créer ce livre, c'est full paranoïa, quoi. Anti-gouvernement, anti-drogue, c'est vraiment complètement dans la parano des années 80.
J'ai trouvé dans la préface, effectivement, je me suis dit, mais c'est presque trop,
ouais.
Ce côté paranoïaque.
Ouais.
Et c'est pas à cette époque-là aussi qu'il y a eu le fameux truc en France, je ne sais plus le nom. Qui avait un truc dans la...
Dans l'eau ?
Dans la farine de seigle.
Ah, ah le cas des...
Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais,
de ceux qui dansaient, là les...
hmm?
Ceux qui dans le...
Ceux oui,
qui,
c'est l'épidémie de danse.
La légende des personnes qui... Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est le seigle qui avait fermenté.
Ouais. Pourri. Mais il y avait une théorie, ah bah justement, Telex le dit, qu'il y avait une théorie qui disait que c'était la CIA qui avait mis du LSD sur tout un village.
C'est l'ergot des seigles, voilà, c'est ça.
Mais il y avait aussi le projet MK Ultra. C'était le nom de code à la CIA pour tout ce qui était développement des pouvoirs psychiques et les boosts liés à la prise de drogue. Et je le sais, parce que c'est une chanson de Muse. Ça s'appelle MK Ultra 2, qu'ils ont fait dans leur album le plus complotiste, qui est Drone. Voilà.
Ok, merci Julien. Et donc, puisqu'on parle de complot, parmi tout ce qu'il a pu lire à l'époque et qu'il a aussi certainement inspiré, il a aussi parlé des cas de combustion spontanée qui semblaient inexpliqués et que lui retrouvait dans quelques journaux. Et enfin, une dernière inspiration, et là, il en parle directement dans la note d'auteur à la fin du livre, c'est sa fille Naomi. En fait, dans la note d'auteur, il la remercie de l'avoir aidée à appréhender ce que c'est d'être une jeune fille intelligente approchant de l'âge de 10 ans. Et dans l'interview du mois de mai, il a précisé qu'il n'écrit jamais de façon déguisée sur les personnes qu'il connaît, donc c'est pas du tout une façon d'écrire sur sa fille, mais qu'il a quand même la chance de pouvoir observer les comportements et la composition émotionnelle des gens qui l'entourent. Et que, en fait, il s'est rendu compte à cette époque que Naomi, elle pouvait se mettre très en colère parce qu'elle contrôlait pas ses émotions. Et il s'est dit que si on donnait à quelqu'un comme ça ce genre de pouvoir, et ben, Dieu seul savait ce qui pourrait se passer. Et il se souvient aussi que ça n'a pas été un livre difficile à écrire. Il a même employé le mot de fun. Et surtout que c'était très libérateur d'écrire une chasse à l'homme sans savoir ce qui allait se passer. Et il a aussi beaucoup aimé le fait qu'il se fasse prendre. Parce qu'on le rappelle, King, il ne sait jamais à l'avance ce qu'il va écrire. Et qu'il s'est un peu surpris lui-même dans ce que tu disais, Julien, de se dire, bon, en fait, ils se font attraper, quoi. C'est pas complètement une chasse à l'homme, mais ils se font avoir à un moment donné. Et en plus, c'était libérateur parce qu'à cette époque, il était assez confiant en sa réussite. Pour moins penser au public et plus penser à se faire plaisir. Et il savait qu'il pourrait gagner sa vie comme ça, donc il s'est un peu enlevé une pression qu'il pouvait se mettre sur certains romans avant. Et c'est marrant parce que je crois que c'est toi, Julien, qui au début faisait un lien avec Carrie, et c'est un lien que beaucoup de personnes ont fait. Et lui, il a une réponse pour ça, en fait. Il a dit, je cite, « Pour moi, elle se lit d'une manière logique, pas d'une manière autoplagiante. Charlie McGee est une super-héroïne. D'une certaine manière, Carrie est une anti-héroïne. Elle est juste cette triste créature. La grande différence est que Carrie n'a pas de père et que sa mère est folle. Les parents de Charlie, Andy et Vicky, sont plutôt aimants et l'élèvent du mieux qu'ils peuvent. Je pense donc que les histoires sont assez différentes. » Et il y a plusieurs critiques qui ont qualifié ça de se dire que c'est la nature contre la différence entre Carrie et Charlie.
C'est vache pour Carrie un peu quand même.
C'est vache pour Carrie, mais en même temps, en effet, quand Charlie est sorti, la peur un peu des éditeurs et de certains critiques qui ont vu la quatrième de couvre sortir en avance, ils se sont dit, en fait, il nous resserre la même sauce, le truc a marché, ça a eu un gros succès, parce qu'en plus, c'était son premier roman publié, et ça a tout de suite été un succès avec l'adaptation, et en fait, ils se sont dit, ils se foulent pas trop, ils nous ressassent le même truc, et en fait, il y a des ressemblances, mais évidemment, quand c'est assez logique d'avoir des ressemblances entre deux bouquins d'un même auteur, mais pas tant que ça, quoi. Et enfin, les côtés connexion. Alors, l'agence gouvernementale qu'on appelle La Boîte en français, qui est The Shop en anglais, elle est présente dans d'autres histoires de l'œuvre de King, et notamment, elle est très importante dans Le Fléau, dans Les Tomic Knockers, dans Les Langoliers, dans Brume, et plus récemment dans L'Institut. Donc, nous, on a déjà fait Le Fléau, et en fait, le projet qui... Ouais, mais dans Le Fléau, le projet au début qui... Attends, non. Dans Brume, le projet au début qui fait échapper les créatures, c'est un projet qui est conduit par La Boîte. Dans Le Fléau, le laboratoire, c'est un laboratoire de La Boîte. Et dans Les Langoliers, j'ai plus le lien exactement, mais je pourrais le retrouver. Okay. Et dans Les Tomic Knockers... Bah non,
moi non plus.
C'est cité, ça se trouve que c'est juste cité de façon un peu random, mais en tout cas, The Shop est là, quoi. D'ailleurs, dans les Tomic Knockers, le personnage de Gardener, il parle à Bobby d'une petite fille qui a détruit par le feu la base de La Boîte. Donc, on a bien La Boîte dans les Tomic Knockers. Grand Poil, tu l'as relevé au moment de ton résumé, parce qu'un personnage porte le nom d'Eddie Delgado. Bah ouais, mélange de deux personnages du cycle de la Tour Sombre. Eddie Dean et Suzanne Delgado, coïncidence, on ne sait pas.
Quand ça t'écrit, ça fait vraiment, encore une fois, ça fait vraiment chapeau des noms. Oh, Eddie Delgado et oh, Eddie Dean, Suzanne Delgado. Ok, ça marche.
Ouais, c'est bizarre. Après, tu vois, tu peux essayer d'étendre la théorie où on disait que Patrick Hofstetter, vu qu'il meurt dans ça peut pas être lui dans cette version-là. Enfin, ça peut pas être lui dans l'univers de ça tel qu'on le connaît. On peut pas avoir le Charlie tel qu'on le connaît. Donc peut-être que les deux sont dans des univers différents et que dans le Charlie qu'on connaît là, en fait, il y a un Eddie Delgado qui existe parce que il se passe autre chose avec la Tour Sombre, quoi. Tu vois, où les deux personnages ont fusionné et que les contemporains de ça, c'est Eddie Dean et Suzanne Delgado, et les contemporains de Patrick Hofstetter adulte, c'est Eddie Delgado.
Ça va trop loin.
On pourrait se tirer par les cheveux. De ouf. On était obligé de le relever parce que c'est, enfin, cette histoire de nom et de prénom, il faut toujours essayer d'en faire quelque chose. Et c'est tout pour
moi. Il y avait une question chat, tu pourras peut-être y répondre. C'est DJ Parangon qui se demandait si Charlie avait bien marché en France. Parce qu'il en a entendu parler tard après sa première diffusion, on va dire, publication.
Le livre, je sais pas du tout, j'ai pas les chiffres de vente, en plus 84 j'étais pas née honnêtement, donc je peux même pas vous faire profiter de ma connaissance. Ben oui, mais quand je dis que j'avais une nounou dans les années 90, je rigole pas.
Oui, mais c'est pas une excuse.
Non, mais parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont bien marché ou pas, parce que je m'en souviens, tu vois, mais là non, j'ai du coup pas de souvenir et j'ai pas l'info, désolé.
Okay.
Aux États-Unis, en tout cas, il a bien fonctionné, je crois, parce qu'il y a eu le film qui avait bien fonctionné, si je ne me trompe pas.
C'est peut-être le moment.
Il est de 84.
Non, donc c'est 4 ans après le film.
Il est de 84.
Alors juste.
Je le sais parce que j'ai dû chercher sur Internet.
J'étais recherché le lien dans Les Langoliers. Et à un moment, Albert, alors je sais plus si Albert c'est, parce qu'il me semble dans Les Langoliers, il y a un mec qui est assez complotiste dans les passagers qui font l'expérience.
Oui, oui, c'est le mec détestable là.
Et
celui qui déchire.
Ouais, ça doit être ça. Et en fait, alors je disais, je me penche parce que le truc est de travers, mais il cite carrément The Shop en disant que en fait ce qu'ils vivent, ça pourrait être une hallucination collective. Et je me rappelle de ce passage. Maintenant.
Bien joué.
Ok.
Merci
pour la précision.
Merci Google. c'est ta WAM.
C'est ta WET.
Allez. Alors, pour les adaptations du livre, il y en a eu 3. Après, je n'en parlerai que d'une dans le détail. Donc, la première, c'est celle de 84. C'est bien ça, hein ? Oui.
C'est ça.
Putain, je suis désolé, je renifle de ouf.
Tu renifles.
Donc, Charlie, de 114 minutes, réalisé par Mark L. Lester, et j'y reviendrai après. Et dedans, on a surtout de connus Drew Barrymore, qui joue Charlie. E.T. t'es déjà sorti ou pas encore?
Oui, il était sorti, je crois.
Je pense, ouais. Il me semble que c'était avant que je sois née.
Okay. Ouais. Et juste après Drew Barrymore, elle jouera aussi dans Cat's Eye, qui est un autre truc de King. Donc elle fait partie de ces gens qui ont fait plusieurs King.
Ok. Il y a Martin Sheen, qui joue Lister, qui est le papa de Charlie Sheen, notamment. Et on a une actrice de Melrose Place, puisqu'on a Ever Locklear, qui joue Vicky.
Je l'avais oublié.
Qui ne sert à rien.
Qui ne sert à rien. Putain, je suis désolé, je parle vraiment du nez. On a une deuxième adaptation qui fait partie de ces suites non reconnues par l'auteur.
Il a récupéré les droits depuis, hein, de Charlie. Hein. Il a fait « Vous arrêtez vos conneries, je récupère ». En même temps qu'il avait récupéré genre les enfants du maïs et tout, il a fait « Hop, hop, hop ».
Ouais, je comprends. Bah, alors, c'est sorti en 2002, donc c'est dans cette même veine-là. Ça s'appelle, je sais plus si ça s'appelle Firestarter 2 ou Firestarter tout court, Sous l'emprise du feu.
Rekindled. Ouais. Firestarter 2, Rekindled.
Il y a le 2, donc, du coup, dans le titre.
Ouais.
Et il y a, mais pas forcément, il me semble, il y a plusieurs titres. En tout cas, en français, c'est vraiment pas clair.
Quoi. Non, en anglais, j'ai l'affiche sous les yeux. Et,
Donc c'est Firestarter 2 et blablabla, je sais pas quoi.
Rekindled. Voilà.
Et puis, je crois que c'est. Alors, je sais pas si c'est un film ou si c'est un téléfilm en deux parties, parce qu'il est très long, il dure 2h48.
C'est un direct tout télévision.
Ok.
Donc, d'après, un téléfilm en deux parties, c'est ça ou... En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu.
Oui, c'est une mini-série télévisée, d'après...
Voilà, une mini-série, ouais.
Je dis pas tout ça de tête, hein, parce que c'est clairement pas un film qui m'intéresse. J'ai sous les yeux le wiki de Stephen King, le fandom, là, qui est toujours très, très riche...
Ouais, alors, ouais, moi, mais j'ai vu ça, et, mais par contre, quand tu le cherches sur Internet, tu es obligé pour le cas, parce qu'il est disponible nulle part, et tu le trouves en 2h40.
Ok. Okay, ouais.
Je pense qu'un jour, je ferai une pastille hors série pour en parler, mais là, j'avais la flemme.
Ah, ouais, je vous.
Faut regarder les trois, disons, pour que ça soit un peu intéressant.
Ah, moi, j'avoue, je vais vous en dire deux mots, Urde.
La série télé, la mini-série, là, je l'ai pas vue.
Alors déjà, j'ai eu beaucoup de peine à la trouver, alors que je trouve assez facilement les films sur Internet, n'est-ce pas ?
C'était cousin russe.
Voilà. Et alors, ce film de 2002, en gros, c'est la suite. Donc, elle a grandi. Et déjà, elle ne peut pas faire l'amour, parce que si elle fait l'amour, elle fout le feu.
Ah.
Donc, déjà, là, t'es un peu ok tiers, tu vois ? Et honnêtement, je me souviens pas.
Alors, c'est par le réalisateur de Elle est trop bien. Pour vous donner à peu près le niveau de film.
À 2002, quoi.
Bon, se passe plein de trucs sans importance. Par contre, le truc qu'on peut relever, c'est qu'au bout d'un moment, elle va dans la boîte et il y a d'autres enfants, en fait, qui ont différents pouvoirs. Donc, ça, j'ai trouvé intéressant. Et en toute honnêteté, je me souviens pas trop, à part qu'il y a plein de... Elle fait des feux beaucoup plus gros, parce qu'il y avait plus de budget. Mais voilà.
À cette époque, le litre n'était pas à 2 euros à la pompe. Hein.
Voilà, ouais. Donc elle fout bien le feu. Les gamins, ils sont trop bizarres. Ils l'aiment pas. Enfin, voilà, c'est...
Okay. Ouais, c'est
pas un grand souvenir,
c'est beau,
quoi.
C'est quoi.
Ouais, moi je m'attendais à une pure merde et en vrai ça va, tu vois.
Ah, mais c'est pas une adaptation de toute façon.
J'ai l'impression de.
Non, c'est une suite.
J'ai écouté parler de Carrie 2, tu vois, qui est sorti 3 ans avant.
Ouais,
c'est un peu le même délire. Hein.
Et pourtant, ouais, la même année, il y a une version de Carrie qui est sortie.
Oui,
qui est sortie.
C'est la pire.
Celle où elle a les cheveux. Ouais, ça donne un petit peu, voilà, 2002. Le genre de film qu'on faisait à cette époque. Ouais, douf.
Ouais.
Et il y a une troisième adaptation qui s'appelle encore Firestarter, qui est sortie cette année et qui devrait sortir en DVD au moment où on sort l'épisode, non ?
Oui, bientôt, là, octobre.
Bientôt, ouais.
Alors, dedans, il y a Zac Efron. Et Pomme a un petit message. Elle dit, film de 2022, on dirait que Zac Efron n'a qu'une seule intention sur le visage, la constipation. Ce film, on dirait un mélange de Un truc trop bien qui n'a pas pris ensemble. Le diplomate au petit pois de Rachel dans Friends. Je ne comprends pas cette dernière phrase.
J'ai pas, j'ai pas la réplique.
En fait, le diplomate au petit pois de Rachel dans Friends, c'est quand Rachel se met à cuisiner pour Thanksgiving, elle fait le dessert et en fait, il y a deux pages qui sont collées. Elle fait un mélange d'un truc salé et un mélange d'un truc sucré.
Ouais, donc le diplomate, le dessert. Donc okay, c'est, oui.
Et Joey le mange en disant, mais en fait, la viande est bonne, les petits pois sont bons, le gâteau est bon, donc c'est ok. Sauf que en fait, c'est des bons éléments qui mis ensemble.
Ah, attends, le diplomate. Quand je l'ai dit en anglais, c'est le truc qu'ils appellent le trifle, c'est le gros plat.
Bah en français c'est le diplomate.
Ah bon, le diplomate.
Ouais.
La viande est bonne.
Exactement. C'est quand t'as parlé de Joey que j'ai vu la scène parce que du coup pour moi un diplomate c'est un petit gâteau rikiki. Je l'avais pas.
Pour moi c'est un cocktail mais.
j'ai aucune idée.
Chacun ses refs. Alors il y a un point qui il y a un lien qui existe entre Charlie de 84 et Charlie de 2002. Le connaissez-vous? Il est un peu technique. Hein. Mmh. Et comme Madame l'experte vient de partir, je vais vous le dire. En 84, c'est pas... comment il s'appelle? Attends, je l'ai pris dans mes notes. C'est pas... merde. Attends, j'ai pas noté son nom. J'ai dit que c'était le réalisateur de Commando. Mais attends, il est là.
Ouais. De Commando.
C'est pas Mark Lester qui devait faire le film à la base. C'était John Carpenter.
Ah oui.
Sauf que
il a dû sentir que
non, c'est entre-temps il y a eu The Thing qui a fait un four.
Oui.
four feu. Excellent. et du coup qui s'est fait virer par Universal et c'est comme ça qu'il a fini sur Columbia. Et enfin chez Columbia et chez Columbia il a fait Christine. OK. Et en 2022, c'est lui qui a fait la musique de Firestarter.
On parle de Carpenter.
Ouais. Je disais, c'était quoi le lien entre 84 et 2022?
La musique du film était cool.
C'est un des bons éléments de... Oui. Mm. De ouf.
Et Carpenter... Et dans celui de 84 aussi.
Carpenter, quand il réalisait Carrie à cette époque-là, putain, ça aurait donné.
En vrai, ça aurait été cool. Ça aurait vraiment été cool.
Ouais, j'ai un truc à dire sur celui de 84. Mm-hmm. Je le trouve globalement assez fidèle à l'œuvre. Mm. Donc, si on le remet dans le contexte de 84, il est pas si mal. Donc à la limite, si vous n'avez pas lu le livre, moi je vous conseille volontiers de regarder ce film qui.
Tu vas me piquer ma chronique, c'est ça?
Je crois que t'avais fini, toi t'étais à 2022.
J'ai pas encore fait mon échelle
là.
De Carrie.
Ah pardon, alors j'ai rien dit.
Alors dans mon échelle de Carrie, où se situe Charlie?
Okay. Et tu veux mon anecdote du film de 2022 ou... Franchement, alors celle-là, elle avait deux dimensions, mais elle en a pris trois. Donc les deux dimensions, en fait, c'est que je vais régulièrement au cinéma et j'avais prévu évidemment de voir ce film. Donc je suis allée le voir une première fois et je me suis endormie au milieu. Non pas parce qu'il était chiant, mais parce que au cinéma, souvent, je m'endors.
Bon. Ça arrive.
Mais à moitié, tu sais, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Bref. Et je me dis, bon, je vais le voir une deuxième fois, parce que ce serait bien quand même que, je sais pas, je fasse une chronique ou quelque chose dessus. Et là, à peu près au milieu, je me suis endormie, mais à 3000%, tu vois, over 9K, quoi. Et dans la salle, on devait être deux ou trois, et il y a une dame qui est venue vers moi, vers mon épaule, genre, madame, vous vous réveillez. Moi, j'ai fait le gros saut, j'ai vu le générique, puis putain, je me suis endormie, grave endormie. Et là, honnêtement, je l'ai revu hier, et je m'en souviens, mais quasi plus, en fait. Il n'y a rien dans ce film, enfin, voilà, quoi. Je l'ai vu trois fois. Et soit je me suis endormie, soit je m'en souviens pas.
Qu'elle donne envie d'aller voir le film.
C'est ça.
je comprends pas, en fait. C'est vraiment ouf, quoi.
Déjà, c'est ouf parce qu'il dure 1h34. Donc, tu te dis, en fait, c'est court. Donc, pour rentrer tout ça dans 1h34, ça devrait être vachement rythmé. Donc, ça devrait pouvoir te tenir éveillé. En fait, pour moi, ce film-là, c'est vraiment comme disait Pomme, où c'est plein de bons trucs, genre, la musique, les libertés qu'ils ont prises sur vraiment insister sur le lien entre Charlie et son père et tout. C'est ok, en fait. Les effets spéciaux sont pas trop mal. Mais au final, il en ressort pas grand-chose de ce film-là. Tu l'oublies. Moi-même, hein, je l'ai vu cette année et je l'ai oublié. Enfin,
c'est un truc de fou.
Il y a pas vraiment d'alchimie entre les deux acteurs et c'était un peu douloureux à voir toutes leurs interviews promo parce que tu dis mais il se passe rien du tout entre eux. Ils ont été très mal castés l'un pour l'autre parce qu'ils sont censés avoir un lien de fou. Et dès les interviews, tu sentais de Zac Efron et de la fille dont j'ai oublié le nom mais qui joue aussi dans ça chapitre 2. Elle aussi, elle se retrouve à avoir
Ryan
fait
Ryan Kira Armstrong.
C'est ça. Et en fait, les deux, tu les voyais en interview et c'était assez fade et assez presque désolant, en fait. Et c'était pas... Enfin, pour moi, la promo était pas très bonne parce que... Pas du tout, quoi. Dès la promo, tu regardais, tu disais « Ah, ça va être compliqué, eux deux à l'écran qui sont censés tenir un peu tous les deux le film, ça va être compliqué. »
Alors DJ Paragon dit « Le film est tellement bien, plus tu le vois, moins tu t'en souviens.
» je viens de répondre, c'est le LSD par télépathie.
C'est une mauvaise bouteille de whisky, quoi. Alors...
Je ne comprends pas, voilà.
Dans l'échelle de Carrie, je vais pas tous vous les donner, mais dans le top 3, nous avons premier Carrie au bal du diable 1976, deuxième Christine et troisième Ex-Aequo. Faut faire un peu de place parce qu'il y a Carrie la vengeance, l'épisode 2 de la saison 5 de Glee et la créature du cimetière. Et le flop 3, nous avons antépénultien Carrie de 2002, avant-dernier La Tour sombre et en dernier le clip de Ghost. Alors,
c'est toujours autant n'importe quoi ce clip.
Respect de l'œuvre, je suis d'accord avec toi, ma chère Urde. J'ai mis 9 sur 10.
Ah.
On peut pas enlever ça au film. Il est ultra fidèle, il reprend tous les principaux moments. Il n'y a aucun moment qui est épargné dans le film.
Épargné, ouais.
On n'a perdu personne en cours de route non plus, on a tous les persos. On a le même ordre de la narration. Ces putains de flashbacks, tu les as aussi dans le même ordre que quand tu lis le bouquin. Donc, on ne peut pas faire plus fidèle.
Ah, tu sens qu'au niveau scénar, ils ne se sont pas trop foulés pour l'écriture.
Bah, après, ils ont fait quelques petites adaptations, mais qui sont pratiques pour ne pas perdre 1000 ans, quoi. Mais je trouve que les petites différences, elles ont un sens. Contrairement à beaucoup de fois où on a vu qu'il y avait des raccourcis qui étaient incompréhensibles.
Alors que manque-t-il, me demanderez-vous, dans ce film ? Eh bien, allons voir ce qui se passe du côté de l'ambiance.
Il est trop mission.
Respect de l'ambiance. Attends, je suis en formation prise de parole publique. Il faut faire des questions rhétoriques. Ça donne du rythme et ça rend empathique. Respect de l'ambiance, 4. Alors... J'ai adoré les synthétiseurs de la musique. Je trouve que ça fait trop années 80. Un peu Tron, quoi. Donc ça, c'était cool. Très 80s. Par contre, je trouve que le film n'a juste pas d'âme. C'est un durnambule pour ceux qui ont la ref d'épisode de South Park sur les roues.
Blade.
Il n'a pas d'âme parce que, en fait, toute cette histoire, par exemple, de complot, qu'il y a beaucoup dans le livre, tu l'as pas du tout dans le film. C'est juste
oui, ils l'ont beaucoup raccourci.
Énormément raccourci. L'idée de cavale, qui est quand même genre les deux tiers du livre, au final, tu l'as pas tant que ça. Parce que au début, ouais, ils courent dans la rue, là. Très vite, au taxi, hôtel, fourgonnette, ferme, bagarre, jeep, lac. Hop, pchit, comme fait Grand Poil, je suis enfermé. ça va ultra vite. Et du coup, t'as pas ce côté, je suis en cavale, je suis en stress, ça fait 14 mois que j'essaye d'échapper à la police, etc. Donc ça, bif pof. Je l'ai dit tout à l'heure, mais genre le doc qui se fait tuer d'un coup dans la glotte, là, de coup de karaté, là, mais ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est pas du tout dans l'ambiance de Ren Bird qui essaye de comprendre un peu ce qu'ils ont fait avec la gamine, son concept de la mort, etc. Ren Bird, alors déjà Ren Bird, il est même pas indien dans le film. Ça c'est un gros nom.
Ouais, Rainbird, effectivement, ils l'ont enlevé. Après, ça reste logique, quoi.
Et puis, Rainbird, des fois il a son bandeau, des fois il a pas de bandeau. Je comprends pas quel est son projet avec son putain d'œil qu'il ne voit pas.
C'est comme les pirates, il change d'œil.
Ouais, mais il a des yeux dans le 84. Enfin, il est pas balafré en fait, ou vite fait.
J'ai l'impression qu'il a un œil un peu aveugle. Genre, ils lui ont mis une lentille blanche, tu vois. Mais c'est pas.
Ouais, mais vite fait. Ouais, ouais.
Donc, je ne suis pas sûr. Pareil, la planque à la cabane, ça dure 30 secondes. Vraiment, tout ce passage-là, on l'a shorté. Donc, à la fin, j'ai écrit, ça fait un peu bâclé. Et rien n'a le temps de s'installer. N'est-ce pas? On en arrive presque à transformer un film de cavale et de science-fiction, ce qui est à la base pour moi Carrie, à un film qui va un peu flirter avec l'épouvante, avec ses musiques, ses gens qui beurrent. J'ai trouvé que le réalisateur, en fait, il avait juste pas lu le livre. Et on lui a dit, fais un film sur une gamine qui fout le feu dès qu'elle veut. Et il a fait ça. Mais il a pas, je trouve qu'il a pas vraiment saisi l'histoire qu'il y avait derrière l'histoire.
Il l'a lu en diagonale, genre.
Et sachant qu'en plus, alors je sais pas si j'ai pas été vérifié, mais parce que Carpenter, quand il a commencé le film, il a bossé avec un scénariste, et je sais pas si c'est sur ce scénario-là qu'ils ont fait le vrai film de 84, ou s'ils ont réengagé un autre scénariste pour faire quelque chose du roman. Mais ça fait pas très Carpenter, je trouve.
Non.
Troisième étape, le divertissement. Vous en avez pensé quoi, vous? J'ai passé un bon moment, ceux qui l'ont vu.
Non, c'était long.
Ouais. Rivella.
Ça baigne dans son jus, quoi.
Non, parce que pour son époque, je trouve que il est bien, si tu veux, parce que t'as l'effet des cheveux de la petite fille à deux balles, avec la musique à deux balles, et quand il y a le feu, il y a des bruits de genre de lion, oui. Tu sais. Et son père aussi. Ah, il y a un truc qui était pas mal entre cette version et la version de 2022 que je me souviens, c'est que son père, en fait, dans la version de 84, genre il se tient la tête.
Il fait caca, quoi.
Vraiment, genre.
Ça
voilà.
Fait trois jours qu'il est constipé, il faut que ça parte. Hein.
C'est ça. Et dans la version de 2022, il fait un craquement comme ça. Ça, j'ai trouvé pas mal. Mais c'est rigolo, en fait, tu vois, parce que ça te ramène aux anciens films. Mais voilà, tu regardes ça maintenant, c'est méga cheap. Quoi.
Alors, j'ai mis 6.
Donc, c'est difficile.
Et, enfin, ouais. Plus que cheap, moi, je considère qu'il rentre un peu dans la catégorie nanar, ce film.
Mmh. Et... Ouais, un petit peu.
Et l'AVF, les doubleurs en ont, et les doubleuses en ont tellement rien à foutre. Mais vraiment, ils ont pris leur chèque. Hein. Sur ce film, il n'y a aucune intention d'essayer de jouer quelque chose qui se passe à l'écran. Je fais mon doublage comme j'ai envie et comme on en parlait avant le début de l'émission. Donc, c'est la voix de Son Goku hein, qui fait Charlie.
C'est Brigitte Lecordier.
Et Brigitte, quand elle fait une voix d'enfant comme ça, ça marche pas, quoi.
J'avoue, je l'ai vu en VO quand j'ai vu.
Ah non, regarde en VF, dès que Charlie elle ouvre la bouche, non. Non, calme-toi sans beaucoup. C'est possible.
Ouais, c'est affreux.
Et j'ai trouvé. Alors j'ai mis que 6 en divertissement parce que je trouve que la fin est un peu longue. Moi je me suis endormi sur la fin, sur la bataille finale dans le camp là. Surtout que les effets spéciaux ont extrêmement mal vieilli. Et elle jette des boules de feu. C'est Ryu, Charlie, en fait.
Sauf qu'à un moment, tu vois la boule de feu en face, tu vois clairement que c'est un missile. Tu vois l'intérieur de la boule de feu.
Mais en fait, ouais, c'est une météorite.
Ouais, c'est une météorite en
feu. Parce
ouais.
que t'as le feu devant, mais derrière, tu vois qu'il y a un truc solide. En fait.
T'as ça, et t'as des comédiens qui courent le long d'une ligne d'essence pour que le feu les suive.
Ouais.
T'as chevaux aussi, monsieur.
Et tu as la maison maquette qui prend feu et qui explose. Bon, pour l'époque, c'était OK, mais
Jean-Michel Prévention sera content. Parce que j'ai lu dans l'excellent livre de Mathieu Rostac et de François Coe, que je vous montre à l'écran.
Oui. Il est très bien.
Que, à sa décharge, Mark Lester, le réalisateur, porte surtout son attention sur la sécurité de ses cascadeurs en ces temps déjà lointains où les effets spéciaux ne bénéficient d'aucune béquille de synthèse. Marco sait qu'il n'y a rien de plus volatile que le feu et s'en sort avec un seul participant blessé au bras. Voilà. Donc il y a une chose bien à retenir de ce film, c'est ça.
Pour refaire un point quand même sur la qualité de ces effets-là, la même année, les trois films au box-office qui font le plus de recettes, il y en a deux qui ont des éléments de fantastique. En un, il y a le flic de Beverly Hills. Okay. Mais en deux et en trois, il y a quand même SOS Fantôme et Indiana Jones et le Temple Maudit.
On est
dans ce contexte-là.
C'était pas les mêmes moyens non plus.
Non, bien sûr, mais tu te dis... t'as les Gremlins 104, quoi. Tu peux réussir.
Ah oui, putain.
Ouais. C'est cette époque-là, quand même. Ouais.
Et du coup,
d'où le côté un peu nanar, en effet.
Ouais, il fait un peu nanar qui se regarde, mais bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Donc, ça lui fait une note de 19 sur 30, ce qui le place à la 10e place sur 22.
Ça va.
Du coup,
c'est honnête.
C'est marrant parce que ils sont 4 à avoir cette note. Il y a Salem de 2004. Je sais pas si vous vous souvenez de Salem de 2004. Il y a l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale, qui est un hommage à Carrie. Et il y a surtout, parce qu'on n'était pas d'accord, Brume la série, qui ne respectait pas du tout l'œuvre, mais qui était très divertissant pour moi. Là, on est un peu à l'inverse.
Ah, parce que moi, je le mets vraiment tout en bas, quoi.
Pire que la tour sombre.
Vraiment tout en bas. Je sais pas. La tour sombre, je la classe même pas. La tour sombre n'existe pas.
Ah, ok, pardon.
Bref, on va pas refaire le débat du film.
Non, il est tard, faut avancer.
Tour
sombre. Oui.
Je suis ok avec cette place, en tout cas.
Ça vous va au milieu?
Ouais, non, c'est bien.
C'est rigolo, comme disait
Urde. Hein.
C'est honnête.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Ouais. Urde, es-tu prête?
Oui. Il me semble que je le fais rarement, ou du moins je ne me souviens pas de la dernière fois. Une fin alternative, comme on en trouve encore sur nos DVD et Blu-ray, qui manque souvent sur nos plateformes de streaming, bien malheureusement.
Tu as bien raison.
Bref, c'est vrai. Bref, j'aimerais vous raconter cette autre fin, et bien souvent, elles sont plus tristes. Vous êtes prévenus, elle est vraiment très triste. Charlie n'avait jamais pu s'échapper. Elle fut assommée puis ramenée à la boîte. Et cette fois, ce n'est plus un petit appartement qui l'attendait, mais une salle contenant le minimum, un matelas, un lit. Derrière, une équipe de contrôle pour l'observer et la filmer. Devant, une vitre de la taille du mur, sur une salle encore vide. Comme nourriture, un cathéter et un tuyau dans son estomac, de quoi la maintenir en vie. Peu de temps après, la pression de la pièce fut augmentée afin de la faire tomber dans les pommes. À son réveil, 3 lits, 2 compagnons. Une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans. Le principe demandé par les scientifiques était le suivant. Le garçon générerait les impulsions électriques et remplirait également des batteries. Charlie s'occuperait de créer une fusion nucléaire dans une mini-centrale. Et la fille créerait non seulement de l'eau qui ferait tourner un système hydraulique électrique, ainsi que le refroidissement de la pseudo-centrale. 3 perfusées pour des centaines de gigawatts, quelle que soit l'époque, c'était très rentable. Régulièrement, la pression de la pièce était montée. Le garçon et la fille avaient des cicatrices au niveau des organes reproducteurs. Ils préféraient ne pas en parler entre eux, sachant très bien que la prochaine génération était en marche pour les remplacer. Avec les mois, Charlie n'arrivait plus à générer assez de poussée sur les atomes. Afin de réveiller son pouvoir, des fléchettes douloureuses lui étaient envoyées dans le dos, dans le cou, dans le cuir chevelu. Elle hurlait et sa haine augmentait son pouvoir. Jusqu'au jour où cela ne suffise plus. Ils pleuraient tous les jours, à voir Charlie souffrir, à souffrir eux aussi, enfermés dans cette base, sans la lumière du soleil, sans l'odeur des fleurs et de l'herbe, sans la caresse du vent. Chaque soir, ils dormaient main dans la main pour espérer garder leur humanité, pour ne pas devenir fous. Et le jour où Charlie n'en pouvait plus, vidé de ses pouvoirs et son petit corps plein de cicatrices, la fille et le garçon, qui l'adoraient comme une petite sœur, lui demandèrent de mettre un terme à tout ça. « Charlie,
Tu seras notre soleil et nous serons tes satellites ou lune ou planète pour te tenir compagnie. Nous serons tous les trois libres ensemble et voyagerons à travers l'espace. Ils se prirent dans les bras et la température monta, monta, jusqu'à ce que leur corps s'enflamme, jusqu'à ce que leur chair se confonde. « Je serai votre soleil, » murmura Charlie, « avant de rejoindre les étoiles. »
Eh ben,
je vous avais prévenu.
Elle est dark, celle-là. Hein.
Ouais. Merci pour le trigger warning avant, parce que...
Et sachez que je l'ai rêvé il y a deux nuits.
Oh, donc, incroyable.
Je l'ai cauchemardé il y a deux nuits, plus précis.
Ouais,
parce que là, c'est la version soft, encore.
C'est ça, de lire 100 pages par jour, en fait. Du coup, le truc t'obsède jusque dans tes songes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et nous allons passer aux questions des auditeurs qui peut-être seront moins dark, peut-être pas. On se retrouve après le jingle. J'espère. Et on commence avec le Discord de Podcut. Grand Poil, c'est à toi, voilà. Je vais faire le maître d'école.
Très bien. Alors, on va commencer par Cypheres qui dit « Vous êtes en cavale suite à possession illégale de super-pouvoir. Quel est votre temps de survie sous le radar ?» Alors, il y a Pomme qui nous a donné sa réponse. Elle dit « 2 heures, je me fais gauler après avoir fait une story pour montrer un arbre trop beau.
» En fait, ça dépend de ton super-pouvoir. Si tu peux te rendre invisible, c'est OK.
Oui. Moi, je pense que je ne tiens pas bien longtemps. Hein. J'ai des capacités de survie assez proches du néant.
Ouais, moi aussi. Je pense que la solitude est tout
pareil. Ouais, pareil que toi. Encore si j'habitais à la campagne, ce serait faisable. Mais là, vu que j'habite en ville maintenant,
je dirais que je vais à la montagne et moi, je tiens des mois.
Ok, Bear Grylls.
C'est le Yeti. C'est le fameux Yeti des Maritiques.
Est-ce que tu bois ton Sprite et ta pizza?
Ensuite, on a Juju Pink qui nous dit « Merci pour ce nouvel épisode du Roi. Si vous aviez ce super pouvoir de emoji feu, hein, que feriez-vous en premier ? Prenez soin de vous les loulous. » Alors, Pomme a dit « Je peux pas dire, c'est interdit par la loi de mettre des gens sur des bûchers.
Bah, » disons que si c'était pas dans un contexte de survie, ça sert pas à grand-chose, quoi.
Ah si. Franchement, moi, j'allume les slips des gens qui me cassent les couilles.
Le bout de slip.
Personne peut savoir que c'est moi.
Ah oui, ouais. Il retrace.
Sauf si tu fais comme le père de l'autre dans le film de 84, ou si tu te mets comme ça avec un slip qui s'enflamme. Bon, peut-être que les gens vont griller que c'est toi.
Moi, à l'heure actuelle, je ferais monter la température de mon appartement parce que j'ai dû brancher mon chauffage à 19 et ça me fait vraiment chier.
Ah,
donc,
oui.
En premier, je ferais ça, tu vois.
Moi, de mon côté, je sais pas. Je ferais brûler les trucs que je dois amener à la déchetterie. Ça ira, je gagnerai du temps.
Mais t'es pas censé les recycler.
Je recycle. Toujours Discord Podcut, Duralex qui dit « Salut la team, s'il n'est pas trop tard pour ma question, vous, si vous avez un super pouvoir, vous seriez un héros ou un méchant ? Larry ou Randall ? Genre, un gars vous grille à priorité ou vous double dans la file d'attente, vous le faites griller à petit feu ?»
Moi, Julien a la réponse.
Alors, Pomme, elle a dit...
Larry, il n'a pas de pouvoir.
Pomme, elle dit « Déjà, je ne serais pas une loseuse. » Ce qu'elle disait sur le Discord, c'est qu'elle, pourquoi Larry ou Randall ? Et sinon, je serais une planquée en vrai.
Moi, je pense que j'aurais la tentation, comme Julien, de. Des fois, j'y pense, tu sais, les gens qui te bousculent dans le métro et tout, tu te dis, toi, si je pouvais te mettre une décharge électrique juste pas à la pensée, je le ferais.
Ça, je te fais fondre tes pompes, là.
Ouais, je pense que je te grille.
Moi, je pense que je commencerai gentil et je me ferai corrompre par le pouvoir assez vite. C'est sûr.
Ouais, moi, c'est ce que je me disais aussi au début, tu vois, des petits trucs genre le métro et après.
Grand poil, tu es le homme.
Et après Randall, quoi.
Non, mais ouais. Direct Randall.
La poubelle à la fin, tu vois, quand t'es au stade où t'as perdu ton humanité.
Si t'es quand gentil, les gens vont te faire chier et tout. si t'es Randall, les gens ne te feront pas chier, ils auront peur. Voilà. Super pouvoir.
Ah, bah oui, c'est ça, mais avoir les gens ont peur de toi, c'est pas cool non plus, tu vois.
Il y en a qui apprécient.
Oui.
Allez, on part sur le Discord SKF, et du coup, c'est Émilie qui va lire la question.
Alors, on a une question de Minka qui nous demande, aimeriez-vous une suite à Charlie? Et on a une question bonus, aimez-vous en général les suites chez King, Territoire, Dr. Sleep, Merci le Feu. Et Pomme, elle fait non, point d'exclamation.
Bah, moi, Dr. Sleep, ça allait, hein.
Ouais, franchement. Alors, Dr. Sleep, elle parle de suite vraiment en bouquin, même si pour le coup le film ça va. Bah, tu as lu le bouquin aussi, Julien?
Ouais, j'avais lu le bouquin.
Moi aussi, c'est pareil. Les suites que je vois de chez King, ça me dérange pas. Elles sont plutôt bien à chaque fois.
Ouais.
Donc, j'avoue que savoir ce que devient Charlie. Je sais pas si vraiment la fin me satisfait, donc j'ai du mal à voir une suite, mais il ferait ça bien, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais, les suites qui existent, ou tout ce qu'il a pu faire, genre des trilogies, ou là, où des Gimlek nous a déjà casé dans 5 histoires, ça passe. Celle-là en particulier, je suis pas sûre d'avoir envie de... Enfin, je suis même sûre de pas avoir envie de voir la suite. Sachant que côté adaptation, le film qui est sorti là cette année... S'il y avait du succès, il voulait en faire une franchise. Mais à mon avis, il n'y aura pas de franchise parce que le film a vraiment pas rencontré son public. Et en 2000, j'ai perdu ma page. Mais en 2017, je crois, il y a eu un projet de série qui s'appelait La Boîte. En 2014, un projet de série qui s'appelait La Boîte et qui aurait fait suite aussi à Charlie. Et ça a pas abouti non plus. Donc côté film et télévision, ils ont envie. King, il a jamais évoqué.
Mais tu vois, d'avoir série comme La Boîte, un peu comme Agent of S.H.I.E.L.D. Marvel, qui fait les petits trucs entre les gros trucs, ça serait intéressant.
En vrai, s'il avait fait une saison de Castle Rock, c'est une série que J.J. Abrams a faite, qui reconnectait un peu tout le multivers de King avec une grosse trame de fond de Voyage Vadash et de la Tour Sombre, et beaucoup en avant quand même aussi un peu de Gripsou, un peu de Misery, un peu de Carrie et tout, ils auraient carrément pu faire une saison avec La Boîte. Quoi. Parce que la deuxième, c'est Misery à Salem. Littéralement, c'est Annie Wilkes qui se retrouve à Jerusalem Slot. Et ça fonctionne très bien.
Oh putain.
Ouais. Je sais que dit comme ça, c'est pas bien vendu, mais la deuxième saison, elle est incroyable. Et en fait, ils l'ont arrêtée. Mais ils auraient pu faire ça, ouais.
Comme qui dit, ouais, c'est ce que je...
J'avoue. C'est ce que je me disais, j'ai pas forcément envie de voir une suite, par contre une connexion dans autre chose, volontiers. Donc ça rejoint ce que tu disais, Émilie.
Vu que tu parles, Urd, c'est toi qui vas faire les questions Twitter.
Ok. Cœur de fille qui nous demande juste un petit mot pour vous dire que je commence les épisodes de La Tour Sombre et toutes les connexions. C'est toujours aussi bien. Ma question. Si vous deviez choisir un prénom pour un de vos enfants parmi le Stephen King Universe, ce serait quoi et pourquoi? Et Pomme nous dit Charlie pour une fille, a priori fille, parce que j'aime bien ce prénom féminin.
Larry pour un garçon. Next.
Moi je prendrais Mathurin pour un garçon.
Moi j'en sais rien parce que je choisis alors j'ai pas d'enfant, mais pour mes animaux ou comme ça je choisis plus tard, donc je choisis pas à l'avance.
Ah oui,
donc je peux pas répondre.
J'ai aucune idée.
Ok.
C'est compliqué comme question.
Alors, je vais faire les questions Facebook. Ça, je me suis même démerdé. Ah non, ça y est, Instagram après. Johan Simon. Salut l'équipe. Quel plaisir de vous voir attaquer ce roman qui fut un de mes premiers contacts avec le roi. Pensez-vous qu'à un moment donné de sa carrière, King envisageait de plus s'orienter vers cet univers scientifico-mystique, télépathie, télékinésie, pyrokinésie, etc., et ainsi créer une sorte d'univers à la X-Men ? Encore merci pour ces longues heures en votre compagnie. Bye bye.
Alors là, on va laisser la parole à la spécialiste.
Alors, Pomme a dit pas de réponse. Ouais. Je pense pas que c'était Pomme la spécialiste.
Non. Même si c'est sa plus grande fan, c'est pas sa spécialiste.
Alors, s'orienter vers un univers en particulier, King, il a, enfin, quand on prend du recul sur son œuvre, il a clairement des phases où, bah, là, il aime bien les enfants qui ont des pouvoirs, là, il aime bien les enfants qui se font maltraiter, et on voit un peu des thématiques comme là, on disait, bah, Charlie, c'est comme le fléau, c'est la paranoïa contre le gouvernement, la paranoïa contre les produits chimiques, les drogues, ce genre de choses. Donc ça, on arrive vraiment sur une timeline à le voir. Après, lui, même, il contrôle pas trop de quoi il veut parler, comment il veut en parler. Donc c'est vraiment une question de ce qu'il a dans la tête à ce moment-là. Donc de chercher à s'orienter vers cet univers-là, ou d'envisager, je suis pas sûre. Après, de créer une sorte d'univers à la X-Men, ce qui est marrant, c'est qu'il a beau avoir un multivers super fourni et de faire des connexions à tout. En fait, ces gens qui ont des pouvoirs, ils se croisent pas. Jamais Danny Torrance il va croiser Charlie dans aucun bouquin, donc c'est vraiment chacun fait son truc de son côté et voilà.
À la lecture de du résumé des résumés de Carrie qui a fait Pomme, j'étais revérifié 2-3 trucs sur Carrie et j'étais persuadé qu'à la fin de Carrie on parlait de Charlie en fait, alors que non, parce qu'on parle d'une game, enfin la fin de Carrie c'est des rapports il me semble de alors je sais pas si c'est la boîte ou si c'est quelque chose d'autre qui explique ce qui s'est passé et qui dit que on a découvert une gamine qui avait aussi des pouvoirs et j'étais persuadé que c'était des pouvoirs de pyrokinésie mais en fait non. J'étais persuadé qu'il y avait
Il les connecte pas trop, tu vois, étonnamment, alors qu'il a tendance à tout connecter et à ressortir les mêmes noms, on sait pas trop pourquoi. Sur ces trucs là, c'est plutôt vraiment chaque personnage avec son pouvoir, chacun dans son coin, et c'est pour ça que j'ai tendance à critiquer un peu aussi quand on dit ah là là, cet enfant a du pouvoir, c'est le Shining. Bah non, parce qu'il a tendance à bien compartimenter. Toi, t'as le Shining, toi c'est la télékinésie, toi, c'est la pyrokinésie, et ça se mélange pas trop, quoi.
Dr. Sleep ne serait pas d'accord.
Le Dr. Sleep, c'est clairement dit que c'est le Shining. Je parle vraiment pour les théories qu'on va s'amuser à faire sur oui. Oh là là, il a une intuition, il a le Shining. Non, en fait, c'est bon, c'est juste une intuition. On se détend.
Moi, c'était le...
Vas-y, Jord.
Enfin, c'était le... Merci. C'était le gros problème que j'avais pour ma théorie, c'était de pas tomber là-dedans, en fait. Parce que... c'était super facile de...
Oui, de trouver un autre pouvoir, tu veux dire.
Et super compliqué. En fait, il y avait... Voilà, il y avait trop de refs, donc il fallait que j'essaye de trouver autre chose. Et ça a été plus compliqué que d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà.
Il a fallu que tu en rêves.
Il a fallu que j'en rêve, effectivement. Je fais beaucoup de choses dans la... pendant que je rêve.
Moi, je suis pas fan des Avengers qui se passeraient dans l'univers de King. Autant dans 22-11-63, c'était plutôt habilement fait. Le fait de...
Ouais, parce qu'il fait que, il fait globalement que des passages. Ils sont liés ensemble, mais ils interviennent très peu dans l'histoire.
Et ça n'a aucun impact sur l'histoire, à tel point que dans la série, ils ont complètement retiré cette connexion-là, quoi. Ça sert à rien dans le scénario.
Mais ouais, j'aimerais pas voir ça.
Non.
Grand poil.
Moi, tant que c'est bien fait, je m'en fous. Je suis pas contre. Après, voilà, c'est tout.
Ok. Deuxième question Facebook. Pierre Ferré. Bonsoir à tout le catète et merci pour ce nouvel épisode. Si vous pouviez contrôler ou créer un élément, lequel voudriez-vous que ce soit ?
Ça, le vin.
Le vent ?
Ouais, faut que tu peux
j'ai compris le vin.
Ça va, j'ai
de bourguignonne. Non, le vent, parce que tu peux transporter des trucs, tu peux te transporter, tu peux arrêter, tu peux... tu peux faire un mur de vent pour stopper des trucs, tu te téléportes quasiment, tu vois.
J'avoue, le vent, c'est pas mal.
J'aime bien le vent. Et parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée.
Ah oui.
Le feu.
Franchement,
le feu, ça tue.
Ouais, j'avoue.
Les gens se rendent dans la rue.
Ça fait peut-être cliché, mais j'avoue, le feu.
Le vent, c'est pratique. Le feu, c'est intimidant.
Alors moi, sans réfléchir, je suis comme pomme, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Mais de la flotte, en fait, parce que bah, si t'es dans la merde, bah, t'as de l'eau, bah, tu survis, en fait.
Ça se tient. Ça se tient. Grand Poil, peux-tu faire Instagram, s'il te plaît ?
Allez, c'est parti. Alors, de Lovely Capsule. Ça n'a rien à voir avec le livre du podcast. J'ai commencé Billy Summer. Obligé, il était en rayon et la couverture est trop belle. Je me demandais donc, est-ce que vous lisez d'autres livres que celui prévu pour le podcast que vous voudriez nous conseiller ? Ça se voit pas trop que j'ai combiné deux questions en une. Alors, je donne la réponse de Pomme déjà.
Ça se voit pas trop.
Elle a lu L'homme invisible de H.G. Wells, un classique qui manquait à sa bibliothèque, facile, rapide et devrait plaire à celles qui aiment les histoires de peur de King. C'est vrai. C'est un bon petit bouquin. Bah moi, je lis plein de choses là. Mais je lis surtout qui vient de sortir la dernière adaptation de nouvelle de Lovecraft par Go Utanabe. Chez Kiun Edition, donc c'est en format manga, c'est super.
Ah, tu lis le Molosse.
Youp.
Youp. Bah moi j'ai lu le Molosse là aussi. Je suis en train de lire. Du coup, moi je lis les Kings au fur et à mesure où ils sortent en anglais. Donc, comme je disais, je lis Fairy Tail, qui est sorti il y a deux semaines. Et vu que je relis pas, en fait, si je relis pas, c'est aussi pour me laisser du temps pour essayer de faire diminuer ma grosse pâle dans les trucs que j'ai lus dernièrement. Julia, il aimait ma grosse palle. une des dernières lectures qui m'a marqué là de cet été, j'ai enfin lu L'Ordre du Contrevent de Damasio et c'était génial. Voilà. C'était incroyable, il faut lire L'Ordre du Contrevent, c'était trop bien.
Moi je suis en train de finir Le Monde sans fin, c'est une BD qui dit qu'on est dans la merde.
Ah oui.
No shit.
Tu peux nous rappeler les auteurs?
C'est Jean Covici et l'auteur de la BD. Hop. Christophe Blain.
Hurde.
Alors, moi déjà, j'en profite. On a une question sur le chat, donc n'hésitez pas à poser nos questions. On les verra à la fin, j'imagine.
Oui.
Par contre, bien malheureusement, je ne lis pas d'autres livres parce que je me consacre aux séries. Aux séries et aux animes. Donc voilà, et j'ai pas de recommandation plus que ça.
Dans les deux séries médiévaux fantastiques du moment, t'en as une que tu préfères ou pas ? House of the Dragon et...
Disons, je préfère quand même les Anneaux de Pouvoir parce qu'il y a quand même plus de budget.
Okay.
Et même à la base, j'aime mieux cet univers-là. Okay. Donc,
et ben voilà.
Et pour ceux qui ont la ref, j'adore le vieux pourri. Donc,
qu'est-ce que c'est beau, les Anneaux de Pouvoir. Oh là là.
Ah ouais, c'est clair. Après, l'autre est intéressant. Et sans plus, quoi. Moi, j'aimais moins à la base.
What?
Et tu sens que c'est pas le même budget.
Non, on va pas se faire
question
tout
suivante.
Non, écoutez, les minuit. Merci. On en fera un hors série.
De CG.
Moi, j'aime tout, hein.
Très bien. De CG Jérôme.
Pardon.
CG Jérôme.
Oh, je ne
n'ai pas changé.
D'accord.
Bonjour l'équipe. Encore bravo pour votre super podcast. Ma question est la suivante. Après les adaptations mitigées Cochon d'Inde qui existent, quel est selon vous le roman du King qui devrait absolument être adapté sur grand écran ? Bonne soirée et merci encore pour le plaisir que vous nous procurez. Encore mieux qu'un Xanax. Et alors Pomme dit aucun stop. Un truc qui devrait vraiment être
adapté. Un qui n'a pas encore été adapté, qu'il faudrait qu'on adapte.
Allez, Les Yeux du Dragon.
Bonne question.
Un peu de médiéval fantastique.
Enfin, en plus, je pense que là, on parlait des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon. Je pense que le genre revient à la mode, donc on n'est pas à l'abri d'entendre parler d'une adaptation des Yeux du Dragon. Parce qu'il y a Fairy Tail qui est un roman de fantasy. Mmh. Qui vient d'être adapté et que les frères Duffer... Ah oui, je l'ai pas dit, les frères Duffer, ils sont très inspirés de l'univers de King pour faire Stranger Things, mais ils ont une des grosses adaptations en plus de ça dont ils ont parlé dans beaucoup d'interviews, c'est Firestarter, le film avec Drew Barrymore.
Okay.
Et il y a des easter eggs de la série vers le film. Et les frères Duffer, ils sont en train de faire Talisman de Peter Straub et King, qui est aussi un truc de fantasy. Mmh. Donc en effet, ouais, s'il y a un truc à faire en ce moment, parce qu'ils mettront du budget, c'est à mon avis ouais, un truc de fantasy, donc genre les yeux du dragon. Après, je suis un peu comme Pomme, je me dis on peut arrêter là en vrai, parce qu'on a vraiment besoin d'en avoir encore beaucoup. Et je sais qu'on m'avait posé la question dans une interview il y a quelques années, et c'était avant que Jesse soit fait, et moi je voulais voir une adaptation de Jesse, et pour le coup j'ai bien aimé ce qu'a fait McKinney.
Moi je suis étonné que Pomme n'ait pas dit Joyland. Qui n'a pas d'adaptation.
Alors quel moi dommage. J'y ai pensé, mais plutôt Élévation. Je pense que ça pourrait être sympa, Élévation, ah ouais. Faire quelque chose.
Ouais, pas, c'est pas faux.
Mais l'autre aussi, hein, sans problème.
Ok, il nous reste un truc sur Instagram de la part de Loylon. C'est pas une question, mais un remerciement. Votre podcast est un précieux compagnon pour cette période pas évidente pour moi, et même dans les bons moments, vous êtes au top, cœur. Bah écoute, merci de nous écouter.
Merci Loylon.
On est là pour ça, le but c'est pas de faire chier les gens.
Merci.
Hein.
On est des troubadours, on est là pour vous divertir.
C'est ça, exactement.
Et j'ai copié dans le conducteur la dernière question de DJ Paragon.
Oh, la plus dure en plus.
Sur Twitch.
J'ai une question ciné si vous avez le temps. Si vous produisiez le film Firestarter avec thunes illimitées, qui prendriez-vous à la réal et pour les actrices-acteurs? Perso, Carpenter, ça l'aurait fait dans les 90s avec quand même Drew pour jouer Charlie. Moi, je fais un dessin animé. Voilà. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut avec les pouvoirs. On peut foutre tout le budget qu'on fout.
Là, c'est pas rendu. Sinon, j'en profite vite, c'est que moi, j'ai aucune référence des noms de réal et tout ça, donc je peux pas répondre. Voilà.
Moi, il y a un truc dont j'ai très très envie depuis quelques années là, et je crois que c'est que ça me vient. Alexandre Aja avait un projet d'adaptation de King, je sais plus quoi, je pourrais chercher sur le site, mais j'ai la flemme. Si vous cherchez Alexandre Aja, Stephen King, vous retrouverez.
Il préfère les trucs plus
sales. Et en fait,
sales.
Depuis.
Il préfère les trucs plus sales, Alexandre Aja.
Et pourtant, il était vraiment sur un projet, il avait optionné les droits, tout ça. Oui. Moi, ce que j'aimerais bien. C'est avoir Julia Ducournau qui réalise un jour un King. Je pense que sur Charlie elle pourrait être bien. Julia Ducournau, c'est une Française qui a fait Grave et qui a fait Titane. Et je me dis là, je sais que la question c'est budget illimité et tout, moi je me dis en fait à un moment donné il faut aussi réussir à sortir du côté hollywoodien, et on en fait des tartines partout et on oublie toute la subtilité de King qu'il a dans ses personnages et dans ses métaphores, et on te sort à mon avis une Julia Ducournau avec quelqu'un derrière qui écrit un bon scénario bien léché, bien profond et tout. On peut faire un truc vraiment très cool, quoi. Et j'aimerais bien qu'on arrête avec Romero Carpenter et les Muschietti et tout, qui vont nous faire des trucs un peu grandiloquents. On n'a que ça depuis 40 ans. Ça va, quoi.
Le saviez-vous ? Alexandre Aja a fait Haute Tension dans la BO et Origin of Symmetry de Muse.
Un
film avec Cécile de France.
Ouais, ils ont aussi fait Piranha 3D. Et ça, c'était une sacrée expérience au cinéma.
C'était une sacrée merde.
Non, c'était trop bien.
Alexandre Aja, il devait faire The Plant. Voilà, ok. The Plant, qui est en fait un livre que King a commencé et jamais terminé parce qu'il le publiait par chapitre sur son site internet, et que en fait tout le monde s'en foutait à l'époque parce que les gens n'allaient pas tant que ça sur internet en réalité, et du coup il l'a jamais terminé.
Ok. Moi je suis un peu comme Hurd dans le sens, je ne saurais pas donner un réal ou une réale pour faire ce film. Y a pas de mecs qui me viennent. À l'esprit, et en tant qu'acteur ou actrice, à part le... Alors, il n'est pas indien, il est mexicain, mais le mexicain des films de... Ah, comment il s'appelle j'allais dire de Tarantino, mais non, de son pote.
Danny Trejo.
Ouais. Lui, en Rainbird, je le vois bien.
Moi, remarque, il fait peur, oui. Ça peut marcher.
Il fait peur, il est grand. Bon,
non, il n'est pas grand. Il est pas grand. Ah non, il est tout petit. Il est tout petit.
Ok.
Mais tu mets la caméra en dessous et ça passe.
Face à une gamine de 8 ans, c'est bon, il fera grand quand même.
Mais pour jouer une gamine, franchement, sortir une gamine, Osef, c'est un peu dur à dire. Et pour jouer le père, en fait, il n'y a pas un visage. J'ai pas mis un visage sur la tête du père quand j'ai lu le.
Si. Le bouquin, attends, comment il s'appelle celui qui jouait dans Demain à la Une là?
Kyle Chandler.
Kyle Chandler, lui, il ferait un père parfait, lui.
Non. Laisse Kyle Chandler tranquille. J'en parle dans le watchlist qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Je vous en super peu. Ok, bah on a fait le tour des questions.
Ah ouais, c'est avec le bon.
Je vois qu'à mon chronomètre, nous sommes à 2h58 d'enregistrement.
Ouais, c'est pas mal.
Let's go. Il est temps de conclure.
Au revoir.
Bonne nuit.
J'avoue.
Bah déjà, merci à tous d'être restés jusqu'à tard le soir. Et à toutes.
Merci beaucoup.
Merci à vous, bande du roi.
Et ceux qui sont restés un petit moment aussi, c'était bien sympa.
Vous avez un plus petit merci, mais merci quand même.
Merci.
On pardonne, il est minuit quand même.
Sur les applications, sur les réseaux sociaux et tout, on en a de plus en plus et c'est vraiment très très cool de vous lire.
Même sur les vidéos YouTube. N'hésitez pas. On vous voit, on reçoit des emails.
Ouais.
On vous rappelle que Le Roi est un podcast du label Podcut et que nous avons un Patreon pour acheter du kérosène et faire ces magnifiques images que vous voyez après en fond sur nos live Twitch, patreon.com/podcut. On fait aussi des playlists de gens du podcast tous les mois si ça vous intéresse, très éclectique, et on se retrouve le mois prochain. Et on va lire quoi ?
La clé des vents.
Voilà.
On retourne encore un petit coup sur la tour.
Ça nous avait tellement manqué.
Dans l'entre-deux mondes.
Merci Émilie Hure des Grands Poils.
Merci à
tout le monde.
Je vais lancer le générique.
C'était cool. Et
très
à
bonne
dans
soirée.
Ciao, ciao.
Bonne journée si vous nous écoutez le matin.
Bonne nuit, soirée. Merci.
Bisous.
Et bisous.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.